Alien et les garçons, épisode 50. Bienvenue dans 3 mondes meilleurs.
Bonjour et bienvenue dans le 50e épisode d'Alien et les garçons. Bonjour Florian.
Bonjour Thomas.
Bonjour Vic.
Bonjour vous deux.
Je suis ému, 50 épisodes. 50e épisode.
Et est-ce qu'on eût cru qu'on serait arrivé jusqu'au 50e épisode quand on a commencé? Je ne crois pas.
Putain, c'est beau.
Ça va aller Thomas, ça va aller.
Je joue bien, non? Franchement, j'ai jamais aussi bien joué de ma vie, parce qu'en fait, je pleure vraiment, mais je me suis fracassé une tapette à souris sur les couilles. Voilà.
Ça commence bien, putain.
50e épisode, donc évidemment, on nous a prévu un programme tout à fait particulier. Non, pas du tout. C'est un épisode tout à fait classique, c'est pas grave. Épisode classique, thème classique. Quel est le thème aujourd'hui?
Le thème du jour, c'est le thème mystère.
Tout à fait. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un thème qu'on ne connaît pas?
Non, pas du tout. C'est le thème dont le mot, c'est mystère.
Tu veux dire, pour dire monsieur en anglais, mais avec l'accent français?
Non, pas du tout. C'est le thème mystère, le thème de l'étrangeté, ce genre de choses. C'est le mot mystère. D'accord. Si on prend dans un dictionnaire le terme mystère, c'est ce mot-là.
Et quelle serait la définition, Florian, du mystère?
Quelque chose d'étrange, quelque chose dont on ne connaît pas tout, qui peut potentiellement avoir une portée fantastique et illusoire, peut-être, je ne sais pas. Que dis-je? Où songe? Qu'en songe?
Ces mots n'existent pas, en revanche. Moi, je veux bien que tu continues,
ces mots
mais
sont bien mystérieux. Voilà.
Qu'en songe, ça n'existe pas. Je te le signale et je te l'indiquerai par email sur ta lettre de licenciement, Florian. Merci à Jenny. C'est Jenny qui nous les a envoyés, qui nous a envoyé ce thème mystère sur Twitter, la plateforme de microblogging. Vous pouvez en faire de même sur Twitter ou sur Facebook ou même par mail. On ne connaît pas l'adresse, mais vous pouvez la trouver sur notre site ou n'importe où. Il n'y a pas de mal.
Vous pouvez même venir chez nous et crier dans la rue et peut-être qu'on entendra.
Oui, si alors je vais pas donner mon adresse tout de suite, mais pourquoi pas. De quoi parlent vos chroniques à base de mystère? Est-ce que ça vous a inspiré? De quoi elles parlent? Dites-moi tout, Florian.
Alors moi, ma chronique, elle va parler d'un monstre qui mange tout ce qui se présente à lui, mais une fois sur deux. Voilà.
Très bien. C'est un monstre. Donc c'est mystérieux. C'est mystérieux.
C'est mystérieux. C'est difficile. Si je vous en dis plus, vous allez comprendre directement. D'accord. et c'est pas l'intérêt. Ce qui compte, c'est que vous sachiez à peu près de quoi on va se parler. Et puis après, vous pourrez déguster, grignoter ma chronique comme vous le voulez, quoi.
Je ne pose pas de questions. En effet, j'ai envie d'en savoir plus, mais ça sera la première. Donc on va très vite le savoir. Vic, mm-hmm. De quoi parle ta. Vic, j'ai cru comprendre que tu avais collaboré avec Luc Besson sur ta chronique.
Tout à fait. C'est une chronique qui va se dérouler en trois parties qui seront diffusées pendant les trois prochaines semaines. C'est une chronique très très longue. En vérité, du coup, je pense que je passerai à la fin de cet épisode. C'est une chronique également que j'espère être mystérieuse et vous y découvrirez l'histoire d'un homme qui se réveille dans une pièce sans porte et sans issue et sans entrée du coup non plus, avec pour seul objet dans cette pièce un téléphone dans lequel est inscrit un numéro et qui sera son seul moyen de communiquer avec l'extérieur de la pièce. Voilà.
Si ça c'est pas mystère, si c'est pas mystérieux,
et si je puis me permettre, si je puis conclure ou apporter une précision à cette description ma foi écrite face à moi, c'est également la première chronique d'Alien et les garçons que je n'ai pas totalement rédigée, mais que je me suis noté des notes et ensuite elle a été en partie improvisée. Donc j'espère que vous ne me jugerez pas sur ses qualités littéraires. Voilà.
T'as fait ça va être une véritable œuvre interactive, mais en enregistré, quoi.
Est-ce que tu vas faire du slam? Tu vas faire du slam ou un truc comme ça?
Ah bah écoutez, vous le verrez. Okay. Plus tard dans cet épisode. Et toi, très Thomas, de quoi, quel est ton mystère?
Ah, alors moi mon mystère, c'est un édifice souterrain du 21e siècle découvert par l'humanité dans un futur très très lointain. Je me rappelle plus de la date, je crois que c'est 42e siècle ou un truc comme ça. Et le titre de ma chronique est en coréen, pour ajouter au mystère.
J'avais vu ça en la téléchargeant, en effet.
Ouais. Et tout ça,
c'est une fausse.
Et petite question, Thomas, est-ce un édifice qui existe à notre époque?
Je crois que oui. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que les gens vont se demander ce qu'est cet édifice merveilleux, enfin bizarre. Et en fait, ça va. Je veux pas trop en dire.
Et en fait, à la fin, on découvre que c'est une fausse sceptique, quoi.
Non, 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 c'est un bien plus grand édifice que ça.
Peut-on tenter de deviner quel est cet édifice ou pas? Ou ne préfères-tu pas, si jamais on avait la solution, te spoiler ton histoire?
Ah ouais, ça nique mon histoire. Ça nique mon histoire. Mais pendant la chronique, vous pouvez crier au mieux et dire j'ai trouvé. C'était
parce que j'aimerais proposer quelque chose.
Non, tu vas pas. J'ai peur que tu trouves. Moi, j'ai pas révélé que ta pièce c'était un mystère au chocolat. Donc je vais pas. Tu vas pas révéler que mon truc c'est un Lidl, ok, et que je fais ça pour le sponsor.
Ok. Alors je te dirai à la fin de ta chronique si je l'avais ou
très bien, d'accord, très bien. Okay. Et évidemment tu diras oui, j'avais trouvé, c'était facile. comme en prenant ta voix de journaliste de Télérama. Voilà, juste pour vous dire, cette chronique, elle va passer en deuxième parce qu'en troisième, c'était pas possible avec ta chronique super longue, Vic, il fallait te laisser à la fin. Mais la mienne, elle est un peu foutraque, donc j'espère que vous arriverez à suivre. Mais je crois que j'ai envie de faire ça un peu maintenant, faire des chroniques un peu foutraque. Alors on verra ce qui se passe. Vous savez ce qu'on va faire maintenant. Vous savez ce qu'on va faire. Vous en avez envie. Hein.
Qu'est-ce qu'on va faire, Thomas? Dis-moi ce qu'on va faire.
Asseyez-vous, enlevez vos chemises et commencez à vous huiler le corps. Nous allons faire un portrait chinois déglingo.
Je suis prêt.
Alors, la question du jour, si vous étiez un titre de film, ou en tout cas, si un titre de film vous définissait vous ou alors votre vie, quel seriez-il? C'est pas français. Quel seriez-il?
Vic, quel seriez-il ton titre de film?
J'ai hésité entre Parasite et Lost in Translation. Et finalement, j'ai choisi Lost in Translation parce que mon édifice est fragile, parce que je me suis rendu compte que ma vie avait été une perpétuelle transition et du coup voilà, je transite toujours et je suis toujours perdu et d'accord, je crois que je le serai toujours.
C'est triste ce que tu dis.
Bah non, finalement non, parce que quand tu te rends compte que voilà, au début quand t'es jeune, tu te dis bah je vais arriver à ces endroits-là, quand j'aurai 30 ans, je ferai ça, quand j'aurai 40 ans, 50 ans, je ferai ces choses-là. Au final
est-ce que c'est pas le voyage qui compte plutôt que la destination, Vic?
Florian, quel est ton titre de film, que seriez-il?
Alors moi ça va voler vachement moins haut, hein. En même temps, selon vous, c'est quoi mon titre de film?
Bah alors pour toi?
Oui.
Little Miss Sunshine.
Alors j'y ai pensé, mais non. Mais c'est plutôt un film qui est assez récent, un film français de 2018, réalisé par Gilles Lelouch.
Tristesse Club.
Non.
J'espère que c'est pas Infidèle.
Non.
Attends.
C'est Le Grand Bain. Voyons.
Ah oui.
Le Grand Bain. Pourquoi? Parce que forcément, vous connaissez mon appétence pour tout ce qui est domaine aquatique, notamment les grandes baignoires. Et quoi de plus grand comme baignoire qu'une piscine, au final, hein, j'ai envie de vous dire. Mais même au-delà de ça, le message est très à propos en ce qui me concerne, parce que du coup, c'est quelque chose... c'est des gens qui se mettent à la natation synchronisée, qui n'avaient jamais fait ça de leur vie, et qui, au final, caressent du doigt la possibilité de faire quelque chose de grand dans ce domaine. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait, mine de rien, avec ce podcast, en mettant à l'écriture, alors que j'étais pas du tout destiné à l'écriture. Et au final, je crois que je touche du doigt quelque chose d'assez intéressant, qui peut me mener à de grandes choses, donc ça me parle.
C'est magnifique ce que tu dis, Florian.
Ouais, n'est-ce pas?
C'est super.
C'est un message d'espoir pour tous nos auditeurs.
Mais oui, pour tous les gens qui ne savent pas lire et écrire comme toi et qui ont appris à la... c'est beau, quoi. C'est beau.
Exactement. Et bah, allez à la piscine. C'est la piscine, conclusion.
C'est ça. vous me demandez, moi?
Et... Oui, toi, Thomas, alors, c'est quoi ton titre de film que tu serais?
Moi, j'ai plutôt Fight Club. Plutôt Fight Club.
Plutôt Fight Club parce que t'aimes pas aller chez Ikea?
Alors ça, oui, ça ne fait aucun doute. Je déteste Ikea. J'ai peut-être même attrapé le Covid chez Ikea, donc qu'on se le dise. Si vous devez y aller bientôt, de toute façon, c'est fermé, donc vous n'irez pas. Tiens. Écoutez, pourquoi Fight Club? Laissez-moi vous expliquer. Je me suis noté deux, trois trucs. Ah ouais.
Ta vie a été un combat.
Mais un petit peu. Mais non, justement, pas exactement. Parce que je voulais pas avoir l'air dark, parce que sinon j'aurais choisi Titanic, tu vois. Ou La Haine. Non. Voilà, mon existence est un club de baston dans lequel je me suis inscrit volontairement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très optimiste et positif. Il y a des gens, leur vie est un combat de base. Moi, ma vie n'était pas un combat, ma vie c'était pépouze, quoi. C'était
Ikea.
C'était, ouais, pas vraiment, mais bon, c'était tranquille. Et j'ai décidé d'aller me prendre des coups dans la gueule, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour la, tu vois, pour la bonne cause, et on est content. Enfin, moi ça me va bien. Du coup, je trouve que c'est plutôt optimiste et c'est plutôt cohérent.
C'est très cryptique, c'est très mystérieux, mais ça colle bien avec le thème du jour, donc ça me va.
On va arrêter tout de suite, on va passer à la chronique de Florian. qui tout non content d'être un excellent auteur de quiz est également un auteur de chroniques de haute volée, malgré le fait qu'il y a encore 2 ans et demi ne savait ni écrire ni parler le français, puisqu'il nous vient tout droit de le vivre en Ukraine.
Il n'était pas propre non plus.
Il n'était pas propre non plus, ça c'est vrai.
Mais même encore aujourd'hui d'ailleurs.
C'est vrai qu'il est un peu cradingue. Et ben on va commencer tout de suite, Florian.
Le monstre quantique.
Il est où ce putain de doudou? Je suis persuadé de l'avoir laissé là.
Ça, c'est papa. Les autres grands l'appellent Erwin. Je crois que c'est un scientifique. Et pas n'importe lequel. On en parle dans le journal du matin. Il a reçu le prix Bobel, même si je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais les grands, ils sont toujours très impressionnés quand je leur dis que papa, il a eu le prix Bobel.
Annie!
Quoi?
Il est où le doudou de la gamine?
Qu'est-ce que j'en sais?
Ça, c'est maman. Papa l'appelle Annie. Mais en vrai, elle s'appelle Anne-Marie, tout attachée. Moi aussi, je préfère Annie. C'est plus joli. Et plus simple aussi. Maman, je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle reste à la maison toute la journée en fumant des cigarettes et en buvant du thé. Parfois, son thé, il sent très fort l'alcool.
T'as regardé dans ton coffre?
Quel coffre?
Quel coffre? Bah, le coffre, celui qui est dans ton bureau.
Et ça, c'est moi. Je m'appelle Georgie. J'ai 9 ans et demi. Mais tous les grands disent que j'en fais plus. Un bon 10 ans écart si je devais faire une moyenne. Je pleure parce que j'ai perdu mon doudou. Il s'appelle Albert, mon doudou. C'est maman qui me l'a offert quand le chat il s'est enfui de la maison. Il s'appelait Albert aussi. Je l'aimais beaucoup, Albert. Papa et maman m'ont dit qu'il était parti à la campagne pour retrouver son amoureuse, donc j'étais triste. Et quelques jours après, maman m'a donné Albert, le doudou, en me disant que c'était Albert, le chat, qui s'était séparé d'une partie de son âme et transformé en doudou pour toujours être à mes côtés, parce qu'il était désolé d'être parti. Et c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. Il a la même couleur, la même tache sous l'œil gauche, et puis les mêmes rayures aussi, au même endroit. J'aurais presque cru à ce que disait maman si je l'avais pas vu coudre Albert pendant plusieurs soirées d'affilée.
Pouf, on a eu du bol. Personne ne doit rentrer dans mon bureau, je l'ai déjà dit. C'est pas un jouet ce coffre, c'est super dangereux. T'imagines si la gamine était tombée dedans?
Qu'est-ce que j'y peux, moi? Tu lui dis un truc, ça ressort directement par votre oreille. Ça te rappelle quelqu'un?
Georgie? Tiens, ton doudou. Allez, dépêche-toi maintenant, on va être en retard à l'école.
Bisous, ma chérie.
Bref, on est les Schrödinger. On habite dans une grande maison en briques à Oxford, et pour vous dire la vérité, c'est moi qui ai mis Albert dans le coffre. Papa, il m'a toujours interdit d'aller dans son bureau. Il m'a dit
« T'as pas le droit d'aller dans le bureau. C'est pour les grands. Il y a un monstre énorme avec de grandes dents pointues qui mange les tout petits. Il fait plus de 2 mètres, non, 3 mètres de hauteur. Il a un pelage noir, hirsute, de longs bras avec de longues mains et des griffes acérées au bout de ses longues mains. Les grands, ils n'y touchent pas. Il en a peur. Et il se cache dans sa tanière tant qu'on est là. Mais dès qu'il sent la présence d'un enfant seul, il sort de sa cachette et il les mange tout cru. T'as compris, Georgie? Alors tu ne rentres pas dans le bureau. Jamais. En tout cas, pas toute seule.
Je sais pas ce que ça veut dire hirsute ou acéré, mais ça fait peur. Du coup, je ne suis jamais rentré dans le bureau. Sauf quand papa est là et qu'il me montre son travail. J'y comprends pas grand-chose, mais je fais semblant. Ça a l'air de lui faire plaisir. Un jour, j'étais avec lui et il était très concentré. Il écrivait des trucs sur un grand tableau accroché au mur. Il avait oublié que j'étais là, je pense. Mais moi, ça m'allait parce qu'il était tard et que normalement, j'ai pas le droit d'être debout quand il est tard. Alors j'ai mis la veste de papa et ses lunettes et j'ai joué au scientifique avec Albert. Je l'ai ausculté avec une lampe de poche et j'ai vu qu'il était malade. Avec la piqûre, je lui ai donné un médicament, directement dans les fesses. C'était un nouveau médicament qui avait pas encore eu le prix Bobel. Alors Albert, il s'est transformé et c'est devenu un singe géant zombie. Il marchait dans la bibliothèque et il a tout cassé. Le truc avec les boules qui comptent, la molécule d'atomes et même le télescope. Du coup, l'armée, elle s'est réveillée et elle a commencé à l'attaquer avec des avions et des missiles. Albert, le chat singe zombie géant, il a sauté de la bibliothèque. Il est tombé directement sur le gros coffre en bois avec les dessins dessus. Il s'est dit qu'il allait se cacher dedans, mais quand il a essayé d'ouvrir le coffre, papa, il s'est retourné très vite et il a couru vers nous. Il a crié si fort que maman, elle a entendu et qu'elle a couru dans le bureau de papa. Ils m'ont pas dit pourquoi ils avaient crié, mais ils avaient vraiment très peur. J'ai eu le droit à un verre de lait et un gâteau. À 22h30. Après, je suis allé me coucher. Papa et maman, ils ont éteint la lumière. Et quand ils ont fermé la porte, j'ai réfléchi un peu. Pas longtemps, parce que j'ai compris vite. En fait, le monstre, il se cache dans le coffre.
Tu manges pas?
Non, j'ai pas faim.
Tu n'as pas faim? Mais t'adores les petits pois carottes.
T'es malade ?
Approche. Non, elle n'a pas de température.
Mais non, j'ai juste pas faim.
Ça va à l'école ? Les autres enfants, ils sont gentils avec toi ?
Mais oui, ça va !
Eh oh, sur un autre ton, jeune fille. Puisque c'est comme ça, tu peux te lever de table et aller dans ta chambre. Pas de dessert pour les méchants enfants.
Ce soir-là, j'ai caché des petits pois et des carottes dans la manche de mon pull. J'ai voulu en cacher plus, mais papa et maman faisaient que de me regarder. Depuis plusieurs jours, je gardais la nourriture et je la mettais dans une boîte sous mon lit. Le mercredi suivant, quand papa est parti travailler et que maman buvait son thé dans le jardin, je me suis faufilé en douce dans le bureau pour aller voir le monstre. J'étais terrifié, mais j'avais une idée. Si je donne à manger au monstre, peut-être qu'il aura plus faim et que du coup il voudra plus me manger. Je pourrais peut-être même devenir son ami et on pourrait jouer ensemble. La porte du bureau était fermée, mais je savais très bien où papa cachait la clé de secours au cas où il perdait la sienne, dans le pot de fleurs, au bout du couloir. J'ai dû prendre un tabouret pour atteindre l'ouverture du pot, mais à part ça, c'était facile. En quelques secondes, j'étais dans le bureau. J'ai fermé la porte derrière moi, sans faire de bruit, et je l'ai refermée à clé. La pièce n'avait pas du tout la même apparence à la lumière du jour. Il y avait de la poussière qui volait dans les rayons de soleil. Ça brillait, c'était joli, et à la fois, ça faisait peur. On avait l'impression que la pièce était abandonnée. Et ça puait aussi. J'aime bien l'odeur des cigares de papa quand il fume, mais là c'était pas pareil, ça piquait le nez. Après ça, j'ai regardé en direction du coffre, j'avais presque oublié pourquoi j'étais là. J'avais les mains qui tremblaient, les petits pois cognaient contre la paroi de ma boîte en carton. J'ai respiré un grand coup, et j'ai commencé à marcher tout doucement vers le monstre. Pendant toute la traversée, j'ai retenu ma respiration pour voir si je l'entendais. Mais il n'y avait pas un bruit, ce qui est quand même vachement bizarre, non ? Quand j'ai senti que je devenais toute bleue, j'ai repris très fort ma respiration, et ça a fait beaucoup de bruit. J'ai eu peur qu'il se réveille et se jette sur moi. Mais il ne s'est rien passé. J'ai commencé à douter, peut-être qu'il n'y avait rien dans ce coffre et que papa et maman m'avaient menti. Après tout, ça n'aurait pas été la première fois. Dans le doute, j'ai quand même soulevé le couvercle, tout doucement, et sans montrer mon visage. Et puis, quand il y a eu assez d'espace, j'ai jeté tout le contenu de ma boîte en carton dans le coffre, et j'ai lâché le couvercle. Ça a fait un gros boom qui a retenti dans toute la maison. J'ai regardé par la fenêtre pour voir si maman s'en était rendue compte, mais heureusement elle dormait, une cigarette allumée dans la bouche. J'ai attendu quelques secondes pour voir si ça bougeait dedans, mais j'ai rien entendu et rien senti. Je me suis dit que c'était peut-être normal, que s'il dormait, il avait peut-être pas vu que je lui avais donné à manger. Et si les parents m'avaient menti, bah alors c'est normal aussi que ça bouge pas dedans. Dans tous les cas, qu'il dorme ou qu'il n'existe pas, il fallait que je vérifie en regardant à l'intérieur. Et j'avais beaucoup moins peur maintenant. Enfin, j'avais quand même un peu les chocottes, hein, mais moins, pas trop quoi. J'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai à nouveau soulevé le couvercle, tout doucement. Puis j'ai passé ma tête par-dessus le rebord, pour mieux voir. Mais dans le coffre, il n'y avait rien. Juste le fond, en vieille planche de bois usé. Pas l'ombre d'un monstre, même pas un livre ou une pile de papier. Mais plus surprenant encore, pas de petits pois, ni de carottes. Au même moment, j'ai fait pipi dans ma culotte.
Je peux me lever de table ?
Déjà ? Tu veux pas un dessert ?
Je peux l'emmener dans la chambre ?
Et bien sûr que non.
Alors non, merci beaucoup.
J'avais trouvé la technique. Si je mangeais super vite, j'avais environ 30 minutes avant que les parents montent à l'étage et commencent à faire leur truc. C'était largement suffisant pour prendre la clé dans le pot, rentrer dans le bureau et donner à manger au monstre. Chaque soir, je gardais toujours une poignée pour lui. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il mangeait pas tout. Il y a des trucs qu'il aimait pas. Les pâtes, le fromage, les épinards, la purée, les carottes et les petits pois, ça il aimait. Par contre, il aimait pas les patates, le riz, la viande, les pommes et les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles, je peux comprendre, c'est vraiment pas bon. Par contre, la viande et les patates, je comprenais pas. J'ai continué comme ça pendant encore plus de jours et il y avait un truc qui clochait. Parce que des soirs, il aimait bien un truc et le lendemain, si je lui ramenais le même truc, il y touchait pas. Et c'était soit tout, soit rien, hein. Quand il en voulait pas, il en touchait pas une miette. C'est là que j'ai eu une idée. Les monstres, ça mange peut-être pas comme les humains. Les humains, ils mangent pas d'enfants par exemple, alors que lui, si. Donc j'ai commencé à mettre d'autres choses dans le coffre. Mais j'ai été maline, tu me connais. J'ai pas pris les choses que papa et maman ils aimaient bien. Je lui ai donné le cadre avec la photo de mamie, le livre sur la table chevet de maman, une louche, la statue moche du deuxième étage, du gravier, des feuilles d'arbres, mais aussi pas mal de trucs du grenier. Et même avec tout ça, il mangeait tout une fois sur deux à peu près, et jamais les mêmes choses. Mais surtout, après tout ce temps, je l'ai jamais vu. J'ai bien essayé de feinter, en mettant quelque chose dans la boîte et en gardant un peu le couvercle ouvert. Mais il est pas bête, hein. Quand je faisais ça, il sortait pas. Je me suis dit que si c'était papa qui ouvrait la boîte, peut-être qu'il sortirait. C'est là que j'ai pensé à Albert. J'avais peur qu'il le mange, bien sûr, mais c'était un risque à prendre. Alors un matin, avant d'aller prendre le petit déjeuner, j'ai mis mon doudou dans le coffre. Et j'ai fait semblant de piquer une crise, parce que je le retrouvais plus. Et je savais que si je faisais ça avant d'aller à l'école, papa et maman, ils feraient tout pour le retrouver. La suite, tu la connais, ça a marché. J'étais dans l'entrée du bureau quand papa a soulevé le couvercle. Mais il s'est rien passé. J'en avais marre au bout d'un moment. Il fallait que je trouve une solution.
Georgie ?
Georgie ?
Georgie ?
Un matin, je me suis levé et il n'y avait personne à la maison. J'ai cherché partout, mais non, personne. Pourtant, c'était dimanche, ils auraient dû être là. Mais ça leur arrivait parfois de partir une heure ou deux pour aller voir papy et mamie, et ils me laissaient dormir. Avant, il y avait la nounou, maintenant je suis une grande.
Georgie !
C'était l'occasion parfaite. Je suis allé dans ma chambre et j'ai enfilé mes vêtements les plus épais. Comme ça, même si le monstre voulait me croquer, il pourrait pas. J'étais tout emmitouflé dans mon pull en laine et je portais un pantalon à papa que j'avais retroussé sur mes bottes en caoutchouc.
Georgie !
Georgie !
J'ai pris Albert sous le bras et je suis redescendu vite fait dans la cuisine pour prendre 2-3 trucs à grignoter, à moitié au cas où le monstre aurait faim et l'autre moitié au cas où j'aurais faim.
Georgie ?
Georgie ?
Cette fois-ci, j'étais bien décidé. J'ai remonté les escaliers et je suis rentré dans le bureau. J'ai attendu quelques secondes devant le coffre, couvercle ouvert, histoire de laisser une dernière chance au monstre de pointer le bout de son nez. J'ai compté jusqu'à au moins 100.
Georgie !
Puis 1000.
Georgie !
Puis 10 000.
Georgie.
Puis je suis rentré dans la boîte et j'ai refermé le couvercle. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici, Albert. En tout cas, je suis super contente de t'avoir retrouvé. Je savais bien que tu serais pas parti sans moi.
Donc ce qu'on apprend là aujourd'hui, c'est que le chat de Schrödinger s'appelait Albert.
Tout à fait, alors ça c'est un nom que j'ai défini de manière complètement arbitraire, mais à la fois c'est pas déconnant, j'ai donné Albert parce que Albert Einstein, et il était très reconnaissant, Schrödinger envers Albert Einstein. Donc voilà.
Est-ce qu'il y avait des éléments vrais là-dedans ? Un petit peu ?
Il y a des éléments vrais, les prénoms sont vrais. Georgie, maman et papa s'appellent bien Georgie, Erwin et je sais plus comment.
Annie.
Annie pour Anne-Marie tout attaché. Ce qui est vrai, c'est vraiment Anne-Marie tout attaché d'ailleurs. Ça c'est vrai. Après tout ce qui est vrai, c'est non, ils avaient pas de boîte dans laquelle on pouvait mettre des choses et parfois ça disparaissait, et parfois non.
Ça c'est sûr
le,
que
le,
voilà.
Prix, le prix Bobel, c'est vrai.
Le prix Bobel, c'est le prix Nobel.
Ah.
Mais dans la bouche d'un enfant.
Ah mais je savais, bah, il a eu le prix Nobel.
Il a eu le prix Nobel, tout à fait, ouais.
Ouais, donc en fait, ce que tu nous as décrit, c'était un peu un monde dans lequel l'expérience de pensée du chat Schrödinger n'est plus vraiment une expérience de pensée, mais une expérience tout court. C'est un peu ça.
C'est ça, une expérience tout court. Peut-être même un tour de magie, un tour de magie, en tout cas quelque chose de magique, un vrai coffre dans lequel il pouvait se passer des choses. Ou en tout cas, peut-être que ça avait pu inspirer Erwin Schrödinger pour son expérience quantique.
Ah oui.
Je ne sais pas. Dans tous les cas, je me suis dit, je suis parti d'une simple phrase pour commencer ce thème mystère. Et si on faisait une partie de cache-cache chez les Schrödinger, qu'est-ce qui se passerait ? Et du coup, j'ai foncé dedans et j'ai pensé à cette histoire de Georgie. Que j'ai voulu laisser en tant que fille, même si ça devait être assez perturbant, j'imagine, pour les éditeurs, d'avoir une jeune fille qui est jouée par moi. Mais je me suis dit que c'était bien pour garder la véracité historique.
Non, mais tu as bien fait. Et c'est justement, c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'il y a un côté... Enfin, déjà, je trouve que c'était un peu... c'était doux, j'ai noté doux comme du Gondry. Je trouve qu'il y avait un truc un peu de Gondry, un peu, tu vois, réconfortant. Et effectivement, le fait que tu gardes un cadre un peu réaliste, crédible, et que tu rajoutes cette espèce de... réalisme magique un peu naïf dedans, ça donne un truc, ça passe bien, tout se passe sans qu'on se pose de questions, je trouve ça assez cool, assez réussi.
Bah et puis quel plaisir d'écrire justement comme si c'était un petit enfant qui parlait, parce que du coup la concordance des temps, bah les couilles. je pense que j'en ai dans tous les sens, tu vois.
Quel
quoi.
Plaisir.
Concordance des temps, les phrases et tout, alors là ça fait du bien.
T'as pu être naturel, quoi.
Ah mais tout à fait.
Ouf. Non, je comprends.
Mais au début, je croyais justement que j'allais dire, je m'étais noté une remarque qui disait j'aime bien quand tu le côté point de vue d'enfant sur une expérience d'adulte ou quelque chose qui est, enfin, quelque chose qui est fait par des adultes, ou en tout cas on connaît sa version adulte. En fait, bon, tu vas plus loin parce que c'est même, au final, c'est, tu dépasses effectivement, tu apportes d'un peu de magie dedans et un peu de mystère, et c'est pas totalement un point de vue d'enfant sur quelque chose qui existe vraiment. Mais c'est vrai que j'aime bien le côté narrateur. Le point de vue d'un narrateur extérieur qui raconte une histoire, alors quand c'est celui d'un enfant, c'est vraiment marrant, quoi. Et t'en avais fait aussi des histoires comme ça où finalement tu fais des réexplications historiques. T'en avais fait
pour le LSD aussi, t'avais fait
le LSD sur Adolf Hitler aussi. Il y avait une partie où tu mélangeais un petit peu la réalité avec une histoire que t'inventes, ouais, mais qui a des conséquences ou pas dans la réalité. Enfin, c'est une espèce de fausse uchronie, parce qu'au final, l'histoire reste la même. Dans notre monde, quoi, mais avec une explication différente. T'aimes bien faire ça?
Mais ouais,
c'est rigolo.
J'aime bien en ça. En fait, pendant que nous, Vic et moi, on est en train d'écrire des chroniques avec moi, par exemple, 10 itérations du mot pénis dedans, sous différentes formes, lui, il est en train de construire son œuvre tranquillement, tu vois, avec un grand.
Tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que l'œuvre, du coup, tu reprends des bases de l'histoire ou de choses qui sont vraiment passées, sauf que tu réinventes un petit peu des choses autour. Là, tu as collé un petit peu de magie, ou tu des anecdotes en plus, ou il y a des trucs un peu réels, d'autres trucs non, c'est marrant.
Je pense que tu penses aussi à Gunther, le super-héros qui en fait a sauvé le plus grand monstre de l'histoire.
Oui, voilà,
c'était ça.
Ouais. Mais j'aime bien ça, c'est effectivement peut-être un peu mon côté réalisme magique, ou bien mon appétence aussi pour le fantastique en plus de la science-fiction, mais j'aime bien détourner un petit peu les faits réels, ouais, en apportant un petit truc en plus.
C'était une très bonne chronique, et d'autant plus bonne chronique que c'était une chronique parfaite pour l'ouverture avant les trucs qui vont nous arriver dans la gueule bientôt, je pense.
C'est ce que je me suis dit.
Vraiment excellent choix de timing. Moi, je voulais juste signaler trois choses. D'abord, la piqûre dans les fesses du chat, c'est non. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait, ça.
Dans les fesses du
doudou. Oui,
du doudou,
pardon. Oui, mais du coup, vu que c'était Albert et qu'il a été là pour remplacer, excusez-moi. Parce que, ouais, c'est de la torture animale, je trouve ça moche. Donc, voilà. Deuxième chose qui, pour moi, est inacceptable, c'est cette campagne de calomnie qui vise à faire croire aux gens, et les gens le croient, que le chou de Bruxelles, c'est pas bon. Il faut arrêter avec ça. Ce qui est pas bon, c'est la betterave. Le chou de Bruxelles, c'est très bon. On arrête.
Je ne suis pas d'accord, mais on va pas débattre sur ça. La betterave, ça défonce et c'est tout.
La betterave, ça défonce,
titre,
frère.
Titre de l'épisode, c'est pas mal.
Et troisième note, je connais mes capacités d'acteur, mais une fois de plus, je vois que ça fait au moins 3 ou 4 épisodes de suite que c'est Vic qui est choisi comme acteur. Et moi, jamais, enfin si, pas jamais, mais ça fait vraiment longtemps. Donc après, soit je sais que je suis un piètre acteur et que, bon, j'ai fait quelques castings, j'ai jamais été rappelé, mais quand même, quoi. Bon, en plus, là, c'était difficile. À jouer. Je reconnais que c'était difficile à jouer et que Vic a fait vraiment du bon boulot.
Surtout quand sur ta ligne de texte à lire, donc pour les auditeurs qui nous découvrent, quand on doit faire enregistrer les autres, on envoie un petit texte avant sans explication, sans rien. J'avais pas toute la chronique, j'avais que les lignes à lire et j'avais des lignes qui étaient juste écrites Georgie. Donc je savais pas trop comment fallait. Je crois que je t'en ai fait 50 des différentes. Je savais pas trop le prononcer. C'est difficile de savoir ça, mais pour revenir sur ce que tu dis, Thomas, non, c'est pas vrai. En plus, je trouve que dernièrement, je sais plus exactement dans quels épisodes, de manière précise, mais je trouve que tu t'améliores d'épisode en épisode sur ton.
Ah, t'as step up, hein, t'as step up très fort.
Ah oui, mais néanmoins, j'arrive pas à séduire les producteurs encore, vous voyez.
Mais en tant que Erwin, je trouvais que la voix de Vic marchait très bien. En tant que femme de Erwin, je trouvais que la voix de ma compagne marchait très bien. Donc au bout d'un moment, c'était compliqué. J'aurais pu faire de vous un couple hétérosexuel dans la vraie vie, mais un couple homosexuel au micro, ça aurait été superbe. Mais ce n'était pas mon choix artistique.
Non, mais je comprends et je respecte ton choix artistique parce que le résultat est brillant comme à chaque fois. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ou est-ce qu'on passe directement à ma chronique qui va être d'une violence beaucoup plus...
Déjà parce qu'elle est en coréen, hein, donc...
On a
des auditeurs en Corée, donc si t'as fait une chronique en coréen,
c'est pas mal. Vous voulez que je vous dise, dedans il y a du coréen, du chinois, du japonais, du serbe, du finnois pour le coup, il y a combien de langues différentes. Crachez-vous dans les oreilles, ça va faire mal.
C'est parti alors.
Agendas par-ci, agendas par-là, agendas partout, la chercheuse voit son nom apparaître dans tous les journaux de la semaine. et en une, s'il vous plaît. Pourtant, elle ne parvient pas à complètement se réjouir. Disons qu'elle se réjouit à 80%. 20% de colère et d'appréhension viennent troubler et finalement intoxiquer la pureté de sa réjouissance initiale. En étant chargé par le Saint-Président lui-même d'étudier la mystérieuse structure souterraine, Hagendas le sait, elle atteint le point culminant de sa carrière. Elle va étudier un bâtiment antique, parfaitement conservé, provenant de la très populaire ère Web. À ce niveau-là, ce n'est pas un tremplin pour sa carrière, c'est un téléporteur quantique. Pourtant, elle ne peut pas s'empêcher de voir le verre à moitié plein, ou à 80% plein. Ce projet a beau être appelé à devenir l'événement scientifique du 52e siècle, les militaires en sont les vrais décisionnaires, et elle ne reste qu'un outil à leur merci pour arriver à leur fin. Mais après tout, quoi de plus normal ? C'est bien la section militaire de contre-espionnage qui a découvert la structure, grâce à leurs escadrons de satellites scanners mis en orbite pour détecter les mouchards fouisseurs des infidèles des poly-empires. Mais Hagendas n'a pas le choix. Une grimace de protestation au visage, elle commence donc à feuilleter le mince rapport détaillant ce que l'on sait à ce jour de l'ère Web. L'ère Web commence environ en -150 avant notre seigneur Cédric Mercier, c'est-à-dire il y a un peu plus de 3000 ans. Les civilisations qui y ont vécu sont très méconnues puisqu'elles conservaient leurs données sur des machines primitives très fragiles qui n'ont pas, pour la plupart, traversé les âges. On sait que les humains de l'époque étaient des hédonistes en perpétuelle quête de plaisir et d'amusement. Ils se procuraient du divertissement comme ils se procuraient de l'eau et de l'électricité, grâce à des équipements domestiques capables de leur en fournir à l'infini, des sortes de robinets à divertissement. Aujourd'hui, les gens de l'ère Web ont cette image de joyeux idiots inoffensifs. De joyeux idiots inoffensifs, toujours partants pour passer de bons moments. De joyeux idiots inoffensifs qui allument des bougies étincelles sur la plage à l'occasion d'un beau coucher de soleil. De joyeux idiots inoffensifs qui aiment tellement rire qu'ils mettaient des blagues dans leur sucrerie. Pourtant, aucune donnée scientifique fiable ne vient attester que les populations de l'époque pouvaient être stupides ou incultes, même s'il est factuel qu'on trouve très peu de manuels de géométrie non euclidienne ou de traités de métaphysique sur les sites de fouilles. Enfin, on sait avec certitude que les civilisations de l'ère Web se sont toutes effondrées en l'espace de quelques dizaines d'années et pour des raisons inconnues. Ses yeux sombres plantés dans le faux plafond, Hagendas tapote ses tempes. Ce que lui apprend ce rapport, c'est qu'il n'a rien à apprendre, ou presque, de l'ère Web. Cette structure pourrait être n'importe quoi. Son esprit commence à vagabonder d'hypothèse en hypothèse lorsque la sonnerie de son téléphone officiel retentit dans la pièce. Allô ? Ah ! « Bonjour, archi-général. J'attendais justement votre appel. » Une voix fluette et chantante s'exclame. « Vous comprenez, l'ère Web était une époque de divertissement et d'abondance. C'était un paradis terrestre. Rien d'étonnant donc à ce qu'elle fasse autant rêver nos contemporains. » Sans surprise, l'archi-général Panzani est assez agacé par le sautillant fonctionnaire en train de faire défiler sa présentation en holoprojection. Il se retient toutefois de quitter la table ou de lui briser les cervicales, car d'une, les enjeux sont immenses, et de deux, car sur le fond, cette présentation est cruciale. Elle défend la thèse suivante. L'ère Web, dont est issue la structure mystérieuse, est tendance. Chacun s'est choisi par coquetterie un nom inspiré des marques de cette époque, le concept de marque ayant disparu depuis bien longtemps. Et il est impossible de sortir dans la rue sans croiser un jeune qui porte des pods d'oreilles décoratifs à la mode de l'ère Web. Effectivement, l'ère Web exerce une fascination considérable sur la population. L'archi-général Panzani est séduit. Cette structure mystérieuse est l'occasion de frapper fort, très fort, de démontrer la suprématie de la sacro-sainte nation sur le terrain du soft power, et de ringardiser les infidèles du poly-empire. Un bâtiment parfaitement conservé de l'ère Web, c'est une chance inouïe. Un coup de com' fantastique. Panzani, qui en a assez entendu, interrompt le fonctionnaire. « Nous devons agir vite. Capitaine Babilis, passez-moi ce téléphone. Je dois parler tout de suite à cette Hagendas. » Enfant déjà, Hagendas ne se sentait pas très croyante. Les histoires surannées à propos du prophète Cédric Mercier, racontées par ses écolâtres, ne la touchaient pas. Elle n'éprouvait pas non plus ce sentiment de fierté chauvine répandu chez les citoyens de la sacro-sainte nation. Évidemment, Agendas s'est toujours bien gardé d'évoquer ses quelques doutes en public, ce qui lui a permis d'atteindre un poste respecté dans la communauté scientifique, tout en lui évitant de finir combattante martyre sur le front du pôle sud. Agendas a appris à jouer le jeu. Et jouer le jeu, c'est exactement ce qu'elle fait aujourd'hui en souriant dans l'ascenseur, surplombée de la coupe en brosse de l'archigénéral Panzani et de son état-major ultra-testostéroné. La structure se trouve à environ 900 mètres sous terre. Ce sont des prisonniers de guerre du Poly-Empire qui ont été désignés volontaires pour la mettre à jour dans ce qui est à présent devenu une immense excavation artificielle. En découvrant en contrebas les milliers de fourmis condamnées au travail forcé, l'un des hommes en uniforme propose timidement « On pourrait libérer ces prisonniers et les renvoyer au Poly-Empire. Comme ça, ils répandront la nouvelle de notre découverte directement chez l'ennemi. »« Excellente idée, Mastercard, » lui répond Panzani. La structure est cyclopéenne. Son architecture suscite instantanément le malaise chez l'observateur. De colossaux bas-reliefs représentant des hommes et des femmes mourant dans d'atroces souffrances habillent ce monobloc dépourvu d'orifices. Tout semble avoir été spécialement conçu par quelque esprit malade pour intimider et même terroriser. Par Cédric Mercier, ça fait froid dans le dos, concède Panzani. C'est un peu lugubre pour un peuple supposément joyeux et inoffensif. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Agendas ? Évidemment, Agendas n'en sait rien. Elle bafouille. Peut-être un édifice religieux ou un immense cimetière, mais on dirait qu'il y a des choses écrites dessus. Effectivement, un nombre incalculable d'écrits gravés dans le béton apparaissent aux yeux d'Agendas qui s'est rapproché. De courtes phrases rédigées en plusieurs langues anciennes et donc intraduisibles, empilées les unes sur les autres, viennent strier les parois de la structure. Agendas en a presque la larme à l'œil. Fascinant. Ce sont certainement différentes langues de l'ère Ueb, s'exclame-t-elle. Ces écritures datent du 21e siècle. Panzani, lui, ne semble pas particulièrement ému. Il semble même plutôt impatient. Écoutez, Agendas, si vous n'êtes pas capable de me dire à quoi pouvait servir ce truc, je vais le découvrir par moi-même. Sopiqué, Interflora, trouvez-moi cette saloperie. Le béton épais se micro-fractionne instantanément en poussière qui se dépose sur Agendas, mais aussi dans Agendas, horrifiée et contrainte de reculer pour ne pas finir pompéifiée. Lorsque le nuage de fumée se dissipe, Panzani et ses hommes ont déjà pénétré dans l'ouverture provoquée par l'explosion. Agendas se faufile dans l'étroit couloir et comme à l'extérieur, chaque centimètre carré de béton est utilisé pour faire passer des messages dans des langues anciennes. Le couloir débouche enfin dans une salle tout en longueur où se tiennent Panzani, Sopiqué et Interflora. Devant eux, des alcôves où sont rangées des fûts métalliques. Panzani demande : c'est ça votre cimetière ? On dirait plutôt un centre logistique. Agendas, c'est une petite fleur qu'il y a sur ce tonneau ? Archigénéral, vous êtes tout rouge. Et vous faites de l'eczéma, mon vieux. C'est vrai que ça gratouille. Ça brûle un peu, même. Sopiqué, votre nez vient de tomber.
Site d'enfouissement de déchets radioactifs. Danger de mort.
Alors Vic, t'avais trouvé ou pas ?
Oui, j'avais trouvé...
Depuis le début ? Depuis le début de l'épisode ?
Je sais que Thomas va pas me croire, mais c'est quand t'as parlé de Finlande... C'est quand t'as parlé de Finlande, ce truc de et que t'as parlé aussi que c'était un truc en profondeur, qui était enterré très profondément. J'ai vu un reportage sur... Enfin, je sais pas si c'est celui-là qui t'a inspiré, parce que je sais qu'il y a plusieurs projets comme ça actuels. Mais il y en a un, il y a tout un reportage, tout un documentaire sur un site comme ça en Finlande où ils creusent un truc en spirale, genre genre super, qui a un nom, un truc un peu mystique. Et tout l'intérêt du documentaire, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut indiquer à l'entrée de ce site pour que les générations futures ne l'ouvrent pas.
Exactement. Et... c'est tout le sujet. Alors j'ai pas vu le même truc que toi parce que moi j'avais vu un truc qui est en train de se construire en France, dans Champagne ou je sais pas où, vers Troyes quoi.
Oui. Il y avait un peu plein
mais endroits. Effectivement, il y a cette question de la gestion des déchets radioactifs qui donc vont rester radioactifs pendant genre 40 000 ans ou un truc comme ça. Et il y a un enjeu d'informer les générations à venir que tout ça est dangereux, qu'il faut pas aller jouer avec ce qu'il y a dedans, tu vois. Et il y a des gens qui sont payés toute la journée pour essayer de trouver des idées de genre il faut rendre le bâtiment agressif, il faut mettre des messages hyper simples ou alors dans toutes les langues ou machin. Il y a plein d'idées comme ça.
Ou alors, il ne faut rien dire. Enfin, il faut le cacher, mais si on le cache, parce que ça va attiser la curiosité exactement. Des générations du futur. Parce que typiquement, si sous un caillou, tu mets surtout ne soulevez pas ce caillou, tu peux être sûr que la curiosité forcément. Humaine, ça va, les gens vont le soulever. Donc, c'est intéressant comme sujet.
Ouais, exact. C'est un sujet super intéressant que j'ai pas approfondi plus que ça parce qu'il y a vraiment des gens qui réfléchissent à comment faire pour voilà. Parce que imaginons que à l'époque des pyramides, c'était il y a donc 7000 ans, 8000 ans, un peu moins, 6000 ans. Déjà on a mis 15 plombes à comprendre les pyramides. On sait toujours pas vraiment comment ça marche, à quoi ça sert, on sait à quoi ça sert, mais pas complètement et tout. Donc leurs écrits, on a mis du temps à les traduire. Imaginez dans 20 000 ans, quoi.
J'ai retrouvé le nom du documentaire pour ceux que ça intéresserait. Ça s'appelle Into Eternity. C'est très bien. Voilà. Bah, je vous le conseille.
Et c'est où ?
L'endroit, c'est en Finlande. Onkalo. Ah, je sais pas. Mais je pense que tu peux peut-être le trouver même sur YouTube. C'est un documentaire qui date de 2011.
C'est un truc connu, quoi.
Et du coup, la réponse que j'ai prise là, mais qui est un peu la plus évidente, je crois qu'il déploie vraiment bien plus de créativité, c'est de faire en sorte que le bâtiment, il a vraiment intimidant, qu'il fasse très peur, et qu'il se soit dit, on va non seulement pas mettre d'entrée, bien sûr, mais surtout écrire dans toutes les langues possibles qui existent, qui ont existé, en espérant qu'il y en a une qui traverse un peu les âges ou qu'ils arrivent à la traduire. N'entrez pas, vous allez crever, quoi, grosso modo. Ce qui donne aussi le titre de la chronique, du coup, d'où le titre en coréen. Et voilà.
D'accord.
Mais okay. Ça, c'est pour le côté faire des esbroufs.
Superbe.
Et hommage à toi, Florian, le nom des personnages.
Ben oui.
Le nom des.
Je voulais t'en parler.
Ben ouais, les noms.
Mais c'est génial. Vas-y. Petite préférence pour Soupiquet.
Soupiquet. Ah ouais, moi j'aimais bien Capitaine Babilis, mais après. Je comprends.
J'aime bien Soupiquet parce qu'il pourrait très bien s'appeler Thomas Soupiquet, par exemple, ou ce genre de choses. Je trouve que ça marche bien.
Ça ressemble à Thomas Pesquet.
Non, Capitaine Babilis, ça marche bien, effectivement. Bravo.
Et c'est pas si simple. Ouais, pardon, Vic, vas-y.
Non, je disais, non, sur ce sujet, sur les noms en marque, c'est très cool et ça donne des noms vraiment chouettes. C'est très postmoderniste aussi, toi, qui est passionné de postmodernisme. C'est un hommage.
C'était un hommage à Florian, donc, parce que, voilà, pour expliquer aux auditeurs qui n'ont pas écouté tous nos épisodes, qu'on les aime quand même, même si on les aime moins que les autres, l'épisode 47 de la chronique de l'épisode 47 de Florian, son personnage s'appelle Samsung Galaxy. Donc,
C'était le 47
ouais,
oh là là,
et on avait,
ça remontait si longtemps.
Le temps passe, hein, on vieillit. Hein. Et justement, on avait pas mal ironisé autour de ça, on avait rigolé, et on s'était dit qu'il y avait plein de marques qui étaient marrantes. Et effectivement, du coup, là, je me suis amusé à faire ça. Alors, il y en a plein qui marchent pas du tout, hein. J'ai beaucoup changé le nom des personnages.
Hein, c'est pas simple.
C'est pas si simple, mais en plus, surtout, faut que ça aille dire. Enfin, je trouve qu'Agendas, ça disait scientifique un peu. Je trouve que Panzani, ça dit le général un peu bourrin. Je te vois, bref. Et effectivement, donc, pour répondre à toi, Vic, toi qui es docteur S non propre dans les chroniques.
Sacré niveau.
Là, je t'ai fait plaisir. Et justement, ouais, il y a un côté un peu postmoderne, mais c'est parce que. En fait, ça m'a permis. Alors, c'était un peu gratos. Il y a beaucoup de choses gratos dans cette chronique. C'est pour ça que je vous mettais un peu en garde. C'est un peu violent la musique. J'ai un peu trippé. Je vous en parlerai aussi après. Mais ça permettait d'insister un peu sur le côté burlesque dès le début du texte, avec des prénoms qui sont un peu n'importe quoi. Parce qu'en fait, je trouve que ce texte-là, il a un peu le cul entre deux chaises, entre une fin qui est complètement grotesque et le début qui a un cadre SF classique avec une sacro-sainte nation un peu religieuse qui est en guerre contre des polyempires. Enfin, on dirait un truc un peu plus classique SF. Et je trouve que du début à la fin, j'ai eu le cul entre deux chaises et du coup, j'ai rajouté cette dimension-là de nom propre à la con. Et je trouve que cette fois, on sait où on se trouve, on est dans le n'importe quoi.
Et la musique. Ouais. Parlons de la musique, de l'importance de la musique, comment dire, sur la tonalité effectivement d'un texte. Parce que t'aurais pu faire un truc extrêmement sombre, ouais, extrêmement froid, etc. Et la musique colle très bien.
En un sens, ta première chanson, on est d'accord que c'est un mix entre Rammstein et une espèce de bossa nova.
Absolument.
C'est toi qui as fait ça ou...
Non. Alors la première chanson, c'est un mélange de Rammstein. Enfin, c'est Rammstein, la voix de Rammstein avec une instrument bossa nova par-dessus. Il y a un mec qui a fait ça sur YouTube. La deuxième, au choix, c'est Seven Nation Army, mais avec des cuivres, c'est un peu plus classique. La troisième, c'est Linkin Park, mais avec une instru jazz. Parce qu'il n'y a pas de mal à faire du bien, quoi. Et la quatrième, pour le coup, c'est moi qui l'ai faite, pour de vrai, parce que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais en termes de musique. Et l'espèce de batterie un peu jazzy, avec entrecoupé d'espèces de sons psychédéliques qui partent dans tous les couilles, qui partent en couilles plutôt que dans tous les couilles.
Qui partent dans tous les couilles.
Qui partent dans toutes les couilles de tous les auditeurs. Voilà, c'est fait maison, un peu vite fait, mais c'était parce que c'était difficile de trouver une chanson qui permettait de switcher. Et voilà. Donc oui, c'était n'importe quoi.
C'est quand même à noter que tu as fait une partie, pour l'instant, bientôt peut-être tout, une partie de la musique de ta chronique. Toujours plus loin.
Toujours plus loin, c'est-à-dire qu'avant on lisait des textes, maintenant on prend des comédiens, on fait la musique. Bientôt on va faire des sound design, on va arriver, on va frotter des éponges contre des murs pour faire le bruit du feu, je sais pas quoi.
Ça m'est arrivé.
C'est vrai ? Ah, formidable.
Ouais, bien sûr.
Mais t'aurais dû le signaler.
Des petits sound design au bruit de bouche et tout, et même faire les portes qui couignent. Je vous conseille de le faire à la bouche, c'est bien plus simple, surtout quand il y a de la musique, etc. Ça s'entend pas.
Ah, c'est ce que t'as fait là?
C'est juste qui couine.
Oui.
Non, là, je l'ai fait dans une ancienne chronique, une porte qui couignait.
Ah, t'as du mal à le dire un peu. Non, il a raison.
Ouais, tu dis couigne. C'est les portes qui couignent.
Non, on le dirait le nom de la dessert breton.
J'ai dit qui couinait.
Non, t'as dit qui couigne.
Écoute, les autres.
Non, je pense qu'on repassera à la ralentie.
Les auditeurs trancheront. Il n'y a pas la vidéo encore chez Aline et les garçons. Donc voilà, on va pas s'éterniser plus que ça. Juste un dernier truc, moi je trouvais ça marrant donc ils ont une espèce de prophète qui est apparu environ en 2100, quoi, c'est ce qu'ils disent. Et en fait, si un prophète apparaît en 2100, bah il s'appelle c'est con, mais en fait, forcément, il a un nom hyper banal, quoi. Et je trouve ça cool qu'il y ait un mec qui s'appelle Cédric Mercier. S'il y a un auditeur qui nous écoute, qui s'appelle Cédric Mercier, qui peut nous le prouver, qui nous envoie un message, on va se démerder, on lui envoie tous les goodies du monde, il fait une chronique et tout. S'il y en a un. Sinon, tant pis. Les autres, ça compte pas. Voilà.
Moi, je m'étais noté encore quelques petits trucs. Ouais, noté que tu faisais... Du coup, tu profitais de ce futur pour faire en profiter pour mettre une petite claque à notre époque et notamment faire une critique sociale du Malabar. Je me suis noté.
mais c'est
parce
intéressant.
Il y a quand même un petit... Hein, ouais, non, mais il y a un côté critique sociale un peu anti-Hanouna et
divertissement.
En tout cas, il y a un point de vue sur cette société du divertissement dans laquelle on vit aujourd'hui qui était cool.
Pour tout expliquer, c'est que j'ai écrit cette chronique en lisant L'Infini Comédie, donc David Foster Wallace, qui parle de divertissement aussi. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, qu'on vit une époque de divertissement comme on l'a jamais connue, hein, pourquoi pas, hein, moi je juge pas, je suis plutôt content de jouer aux jeux vidéo, etc. Mais c'est vrai que quand tu penses, dans des sucreries extrêmement sucrées, comme il n'en existe pas dans la nature, qui sont les carambars, comme si ça suffisait pas, dans notre époque de joyeux luron, on a en plus rajouté des blagues. Je trouve que d'un point de vue extérieur, tu te dis putain, mais les mecs, ça devait être des ouf, quoi. Genre, du sucre en barre, qui est un truc de ouf, ils mettent en plus des blagues dedans, mais vous êtes des dingos, les gars. Enfin, moi, je trouve ça assez symbolique. Bref, voilà. Vas-y, continue.
Bah, j'ai bien aimé ce point-là. Et sinon, en termes de, j'ai trouvé ça intéressant que sur un si court texte, je trouve qu'il y a un super world building ça passe par plein de choses, ça passe par les noms, ça passe par l'univers, ça passe par ton son, ça passe par plein de choses. Mais notamment l'idée que dans le futur, on puisse choisir son nom, qui est l'un de mes rêves. Hein. J'aurais adoré pouvoir choisir mon nom de manière que ce soit pas quelque chose de péremptoire à la naissance sur lequel tu puisses plus revenir après et pas donner ton avis. Et toi, tu le propose, donc dans ton futur on peut choisir son nom, et je trouvais ça super. Voilà.
Je comprends, et d'ailleurs j'ai oublié d'en parler, mais on avait défini sans ton accord que maintenant tu t'appelais plus Vic, on l'a défini ça sur Slack, maintenant on t'appelle la Vicoche.
j'ai vu 2-3 messages passer, ouais, comme ça.
Oui. Jusqu'à là, maintenant j'appelle aux auditeurs, si vous voulez quand vous nous envoyez des messages et que vous vous adressez à Vic ou vous parlez de Vic, ne dites plus Vic, dites la Vicoche. Ça lui fera plaisir.
Alors moi, ce que j'aimais bien, c'était le fait de choisir son propre nom, pas celui des autres.
Je comprends. Écoutez, on se fera un portrait des Glingos. Choisissez votre nom, Marc, le prochain épisode si vous voulez. Commencez à réfléchir.
Ça marche.
Et voilà, est-ce qu'on se passerait pas au long métrage coproduit avec Luc Besson de Vic,
de la Vicoche,
de la Vicoche.
faut se calmer là, ça va plus du tout là. Vous avez de la chance qu'on soit en distanciel, bande de petits bâtards.
On profite. Allez, on attaque.
Ça se passe après le bip ou un truc dans le genre.
Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Lila Eva Dirch. Et Lila, c'est moi, mais je suis pas là pour le moment, désolée. Vous pouvez toujours me laisser un message, et s'il est intéressant, je vous rappelle vite, c'est promis. Je crois que ça se passe après le bip ou un truc dans le genre, c'est bientôt à vous. Bisous.
Allô, Lila, Lila Eva Dirch, c'est ça ? Oui, bon, voilà, c'est un peu bizarre ce qu'il se passe là, enfin, pour moi en tout cas, et peut-être que pour vous aussi, en fait, j'en sais rien. Lila, oui, donc vous ne me connaissez pas, je vous connais pas non plus, je m'appelle Charlie, et comment dire, pour que ça fasse pas trop bizarre, en fait, je me suis retrouvé dans une salle et je savais pas pourquoi. En fait, je viens de me réveiller, mais je me rappelle plus de quand je me suis endormi. Je me rappelle de tout, enfin, de tout. je me rappelle de tout avant, mais en fait, ok. En fait, je suis surtout en train de me rendre compte que ce que je vous raconte, ça doit sembler vraiment confus. Je vais raccrocher. Si vous pouviez me rappeler, par contre, j'aimerais beaucoup. Le truc, c'est que je peux pas vous dire mon numéro parce que c'est pas mon téléphone. Je le connais pas, le numéro auquel il faut me rappeler. Donc j'espère qu'il y a une fonction rappel automatique ou quelque chose comme ça sur votre téléphone, si vous pouviez me rappeler, ce serait super chouette. Comme ça, je vous explique ce qui se passe. Si je comprends ce qui se passe, ce sera du coup peut-être plus clair pour vous. Bon, en attendant, je vais essayer de comprendre ce qui m'arrive. Comme ça, peut-être que vous pourrez m'aider. Si vous pouviez me rappeler, j'apprécierais beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, raccrocher, c'est... Ah, putain.
Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Lila Eva Dirch. Et Lila, c'est moi, mais je suis pas là pour le moment, désolée. Vous pouvez toujours me laisser un message, et s'il est intéressant, je vous rappelle vite, c'est promis. Je crois que ça se passe après le bip ou un truc dans le genre, c'est bientôt à vous. Bisous.
Oui, Madame Dirch, c'est encore moi, Charlie Duval. Je vous ai laissé un message il y a à peu près une ou deux heures. Je ne sais pas si vous avez pu la voir ou l'écouter ou quoi, en résumé, je voulais vous expliquer un petit peu mieux parce que j'ai bien conscience d'avoir eu peut-être, sans doute, l'air un peu fou tout à l'heure sur votre messagerie, et je voudrais pas que vous vous mépreniez sur le fait que je sois fou, parce que je le suis pas. Je me suis retrouvé dans cette pièce sans savoir comment, sans savoir quand, sans savoir quoi, sans savoir pourquoi, sans savoir grand chose en fait. J'étais chez moi et je sais pas, j'ai dû m'endormir et je me suis réveillé dans cette grande salle. Ça c'est oui une grande salle, on peut le dire, elle fait peut-être 10 mètres de hauteur, j'en sais rien. En vérité c'est pas vraiment une salle, en fait c'est plutôt un cube en ciment, un grand cube en ciment. C'est un gros cube bien cubique. Il y a rien à part moi. Et au milieu de ce cube, il y avait un téléphone. Alors voilà, je l'ai pris. Le truc, c'est que ce téléphone, il capte pas. Alors je peux pas appeler à l'extérieur. En même temps, les murs ont l'air plutôt du genre costaud. C'est le genre mur gros, mur bien épais. L'autre truc, si on pouvait faire encore plus bizarre, c'est que dans le téléphone, il y a un numéro enregistré et c'est le vôtre. Et c'est drôle. Enfin, c'est drôle entre guillemets, mais quand je vous appelle, là, bah, là, ça capte. Je sais pas pourquoi. Et je sais pas comment ça se fait, mais je, voilà, je crois que c'est une chance pour moi. Enfin, j'espère. Hein, bah, l'idée, ça serait que vous m'aidiez, hein, parce que là, ça s'entend peut-être pas, mais je suis pas super, super rassuré. Hein, du genre, même, c'est un peu l'inverse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Bon, bah, si vous pouviez me rappeler, ça serait, bah, ça m'aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, je crois. Enfin, j'espère. Bon, bah, voilà. Merci, Madame Dirch, et à très vite. J'espère.
Vous pouvez toujours me laisser un message. Et s'il est intéressant, bah, je vous rappelle vite. C'est promis. Je crois que ça se passe après une bip ou un truc dans le genre. C'est bientôt à vous. Bisous.
Oui, c'est encore moi, Charlie Duval, à l'appareil. Je commence à flipper, je vais être honnête, je commence à grave flipper, genre vraiment, hein. Donc, rappelez-moi, s'il vous plaît.
Et s'il est intéressant, bah, je vous rappelle vite. Enfin, on verra.
Le message de votre répondeur était pas le même qu'il y a 10 putains de minutes. C'est quoi ce délire? Je dois délirer, c'est pas possible. Ok, non, bon, ça doit être moi qui délire. Écoutez, Lila, Eva, Dirch, j'ai vraiment besoin que vous me rappeliez là. L'horloge du téléphone indique 16h38 et mon premier message date de 13h30 ou quelque chose comme ça. Ça fait 3 heures que je suis pris au piège dans cette salle. Il n'y a pas de porte dans cette salle. Je sais même pas comment j'ai pu rentrer puisqu'il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de putain de porte. Donc bon, rappelez-moi. C'est quoi ce truc de délire de ouf ça fait presque 6 heures que je suis là-dedans, Lila, alors rappelle-moi.
C'est bientôt à vous.
C'est bientôt.
Bisous.
C'est bientôt.
Bisous.
C'est bientôt.
Bisous. C'est bientôt.
Salut Lila, c'est Charlie, je suis devant chez toi, tu descends m'ouvrir?
C'est bientôt à vous.
C'est bientôt.
Bisous.
C'est bientôt à vous.
Bisous. C'est bientôt à vous. Bisous. C'est bientôt à vous. Bisous. Bisous. Lila, je suis désolé, j'arrête pas de penser à toi. Pourquoi t'es dans ce téléphone? Pourquoi t'es la seule dans ce téléphone, hein? Et pourquoi y a pas de porte ici, hein? Et comment je suis rentré d'ailleurs? Et pourquoi je suis là, hein? Est-ce que t'as quelque chose à voir avec ça, Lila? Est-ce que tu as quelque chose à voir avec ça? Est-ce que tu écoutes mes messages? Est-ce que tu prends du plaisir à me voir là, tout seul, à me voir là souffrir comme un débile tout seul? J'espère vraiment me tromper, Lila. Et j'espère que la prochaine fois, tu vas décrocher. Tu vas décrocher, puis tu vas me dire « Allô ?» Et puis moi, je vais te dire « Oui, coucou, c'est Charlie, t'as eu mes messages ?» Puis je vais t'expliquer la situation, puis tu vas me dire « Panique pas, Charlie, je vais trianguler les données mobiles, je vais appeler la police et on va te sortir de là, mon petit Charlie. Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. On va te sortir de là. »
Vous pouvez toujours me laisser un message. Et s'il est intéressant, bah, je vous rappelle vite. C'est promis.
Je sais pas pourquoi je t'imagine grande. Je t'imagine élancée. Je t'imagine brune, les cheveux aussi noirs que la nuit. Une nuit sans étoiles. Une nuit qui fait peur aux enfants. Et un peu aux adultes, aussi. Je t'imagine la peau très claire. La peau très claire et le visage très lisse. Sans bouche, sans yeux, sans rien. Juste de la peau. De la peau qui me fixe sans me regarder, qui me fixe sans rien faire, sans me parler, sans m'aider, sans décrocher.
Vous pouvez toujours me laisser un message. Je vous rappelle vite. C'est pas mal.
Mais tu vas me décrocher, espèce de salope, putain, tu vas me décrocher, putain de conne! Oui, bonjour Lila Eva Dirch, c'est Charlie Duval à l'appareil. Je vous appelle pour m'excuser de mon dernier message. Je voudrais retirer ce que j'ai dit, hein, parce que je vous ai traité de salope ou de putain de conne ou je sais plus, quelque chose comme ça. Je suis vraiment navré. Hein, je n'insulte pas normalement, je suis respectueux, je suis quelqu'un ce n'est pas mon genre, hein, je vous prie de me croire, hein, c'est pas ce que je voulais dire, non. Je voulais pas dire salope, non, ce que je voulais dire, c'était grosse salope, hein, ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire grosse salope. Bisous, on se rappelle. Ok, Lila, maintenant, selon l'horloge du téléphone, ça fait 25 heures que je suis là. Et si tant est que des choses puissent être étranges dans ma situation, j'ai remarqué deux choses étranges. Enfin, deux choses étranges en plus. Première chose étrange, le téléphone ne perd pas de batterie. Alors, c'est un truc chinois ou j'en sais rien, mais putain, la batterie est toujours à 100%, c'est bizarre, non ? Hein ? Au début, je me suis dit, c'est les services secrets chinois, ils ont inventé une nouvelle technologie, et tout ça, non ? Hein ? Tout ça, c'est un test pour le prochain smartphone ou j'en sais rien. Mais je tomberai pas là-dedans, non, je tomberai pas dans le complotisme. En parlant de complotisme, j'ai cru un moment que c'était les extraterrestres ou quoi, je sais pas, j'ai cru que j'étais dans un vaisseau, genre alien, premier contact, tout ça. Mais j'ai léché les parois de la salle, et tu sais quoi Lila ? Eh ben non, tu sais pas quoi, parce que je te l'ai pas dit, mais tu vas savoir, parce que je vais te le dire, et je vais te le dire maintenant. Eh ben les parois de la salle, quand je les ai léchées, eh ben elles avaient un goût de béton ciré. Un goût de béton ciré, eh, c'est bien un goût de la terre, c'est notre bonne vieille terre. Tu sais comment je le sais, hein, ce goût ? Tu sais comment je peux le reconnaître ? Ça non plus, tu le sais pas, hein ? Ben non, tu le sais pas parce que tu me connais pas. Eh ben, si je le sais, c'est parce que quand j'étais gamin, eh ben une fois, eh ben j'ai léché le sol de mes parents, comme ça, pour voir le goût. Bah ben ouais, j'étais un petit gars, un petit peu cinglé, enfin, tu penses ce que tu veux, je m'en fous. Eh ben, en tout cas, j'ai léché le sol de chez mes parents. Eh ben, c'était le même putain de goût, le goût béton ciré. Un truc genre le roi Merlin ou Casto, je sais pas trop. Les extraterrestres, ils vont pas chez Casto, hein, hein ? Ah ça non, ça t'embouche un quoi, hein ? Je t'ai grillé, Lila, t'es même pas une extraterrestre. Pouh, même pas une extraterrestre, grosse naze.
Je vous rappelle vite, c'est promis.
J'ai raccroché en oubliant de te donner l'autre truc étrange que j'ai remarqué. Bah, c'est simple. Ça fait, comme je te disais, 25 ou 26 heures que je suis là, et j'ai ni fait pipi, ni fait popo. C'est bizarre ça quand même, non ? 27 heures. 32 heures. 32 heures sans pipi, ni caca. Et en fait, je me suis dit, mais c'est parce que j'avais pas bu ou mangé. Alors c'est pas étrange, c'est parce que je mange pas et c'est parce que je bois pas que je ne fais pas pipi et que je ne fais pas caca. Mais en vérité, Lila, putain, en vérité, c'est pire qu'une histoire d'urine, c'est pire qu'une histoire de merde. En vérité, bah, c'est que j'ai même pas faim, et j'ai même pas soif, et j'ai même pas sommeil. Je dors pas, Eva, je suis pas fatigué, j'ai pas envie de dormir, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de boire. Et ça, c'est vraiment, vraiment bizarre. Je crois que je suis devenu un putain de X-Men ou je sais pas quoi. Enfin bon, je vais y réfléchir, rappelle-moi.
Bientôt à vous.
Lila, L-I-L-A, Eva, E-V-A, Durch, D-U-R-C-H, j'imagine. Eh ben, tu sais quoi ? Je me suis amusé à mélanger les lettres de ton drôle de nom dans ma tête. Ça fait 3 jours que je m'amuse à mélanger ces lettres dans ma tête. Et tu sais quoi, Lila, Eva, Durch, j'ai trouvé un truc encore plus bizarre que les trucs bizarres que j'avais déjà trouvé avant. Lila Eva Durch. Si je fous le C là, le H là, je prends le A et je le mets là, le L ici, un petit I et le E là, j'enchaîne avec le D, le U, tac tac, V, il me reste un A et je le mets là, et le dernier L à la fin, et bah tu sais quoi ? Ça fait un drôle de truc. Parce que si je mélange Lila Eva Durch comme ça, hein, comme je t'ai expliqué, et bah ça fait Charlie Duval. Et Charlie Duval, eh ben c'est moi putain, c'est moi, je crois que je deviens complètement timbré, tu m'as rendu fou Lila. En fait Lila, t'es moi, c'est ça ? Je suis toi, tu es moi, on est dans un film à Switch et on est à la fin, et j'ai trouvé la solution, ou je sais pas quoi, je rêve, je suis dans un putain de Christopher Nolan, ou dans une putain de chronique SF, ou je sais pas quoi, c'est dingue, je crois que je rêve. Enfin, je croyais que je rêvais, parce que spoiler alert, je me suis pincé, eh ben, je rêve pas.
Je vous rappelle vite.
Je suis en face d'une porte, Lila. Oui. Ouais, c'est une porte. Elle était pas là, Lila, je sais pas, je me suis bien retourné, elle était pas là, et puis après je me suis retourné dans l'autre sens, et puis elle était là, je sais pas, c'est... Je suis sûr qu'elle était pas là, c'est toi qui l'as mise là. Ok. Ok, Lila, je te rappelle. Ok, je suis dans un couloir, Lila, j'avance. Ça fait au moins 2 heures, ça fait peut-être 3, ça fait peut-être 10, j'en sais rien, que j'avance dans ce couloir. Couloir en béton ciré, le même que celui de la salle. J'avance, je sais pas ce que je vais trouver, j'ai peur de ce que je vais trouver, mais j'ai envie de trouver quelque chose. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de trouver quelque chose, j'avance. Alors j'avance, Lila, j'avance, je te rappelle. Ok, je délire complètement, j'avance toujours, et l'horloge du téléphone se met à raconter n'importe quoi. Je crois qu'elle marche plus trop, je sais pas, c'est bizarre, elle remonte le temps, ou je sais pas où je rêve, ou je crois que l'horloge du téléphone elle revient en arrière, c'est pas possible, ça remonte le temps, c'est vraiment, je comprends pas, c'est de la camelote ce truc, je sais pas, faut que j'appelle le SAV, bon, je sais pas ce que... Ok, Lila, ça fait des heures que j'avance et je suis toujours pas fatigué, je sais plus, ça fait combien de temps, par contre, ce que je suis sûr, c'est que je crois que je deviens fou, ça fait peut-être des jours, ça fait peut-être des mois, ça fait peut-être des années, je sais pas, mais je vais arriver au bout, Lila, je vais arriver au bout, de ce couloir et je vais te rencontrer, Lila, j'arrive, je vais te rencontrer, putain, je peux te dire que putain, Lila, tu vas m'entendre. Je suis arrivé, il y a une porte, là, juste en face de moi, Lila, je suis en face d'une porte, Lila, il y a une nouvelle porte, je suis arrivé au bout du couloir, je sais pas, il y a pas de lumière, mais je sais pas, je suis arrivé en face d'une putain de porte. Je vais l'ouvrir.
C'était du Grand Vic, c'était une belle Crovic.
Il y a Barry White qui était à côté de moi, il a homologué le record, c'est la plus longue chronique d'Alien et les garçons. Bravo Vic.
Merci.
Bravo la Vicoche, pardon, ça sera écrit la Vicoche dans le livre.
Beaucoup d'informations Vic, est-ce que tu veux nous faire un résumé?
Un résumé de l'histoire? Ouais. Ben, résumé de l'histoire, c'est un type qui se retrouve dans une salle avec un téléphone et un numéro enregistré dedans et qui répond pas et il laisse des messages et puis à un moment il y a une porte qui apparaît et là il y a un couloir et il s'avance dans le couloir et il arrive jusqu'à une autre porte et là il ouvre la porte et là c'est fini.
Est-ce que le but c'est que tu nous laisses dans le flou, dans le mystère du début jusqu'à la fin, ou est-ce que tu vas révéler dans cette après-chronique, dans ce débat, qui est cette chère jeune femme, qu'est-ce que fait cette porte, etc.
Eh ben non, je vais m'en tenir au thème de cet épisode en restant bien mystérieux.
Salaud.
Moi j'ai bien une idée de ce qu'il trouve après là derrière, mais c'est à chacun de se faire sa propre idée selon moi.
Moi je me suis dit, mais où va-t-il? Comment va-t-il retomber sur ses pieds? Et en fait, au moment où il est en train de tomber, il est resté juste en suspension à 10 cm du sol, tu sais. Il est jamais retombé, tu vois, il est juste au-dessus comme ça, il peut dire, ah bah non, c'est bon.
En fait, j'en avais des fins. Ma fin principale, c'était je voulais qu'il re-rentre dans la même pièce, qu'il se retrouve dans la même pièce. Ça, c'est, mais sauf que ça, c'était chiant à faire, j'ai préféré conclure, quoi. Et j'en avais d'autres idées, mais bon, j'ai préféré pas en mettre.
Mais t'as bien fait, et je vais parler, c'est la deuxième fois que je parle de lui, j'en parlerai encore une troisième fois plus tard. David Foster Wallace lui-même n'aime pas les fins, aime bien quand ça ne se finit pas, tu vois. Et Adam Levin, c'est pareil, tu vois. Et c'est bien quand ça ne se finit pas comme ça, on peut réfléchir, et je trouve que sinon il y a un truc trop facile. C'est bien de ne pas finir. On peut essayer de faire des théories ensemble si vous voulez. Moi je pense qu'il est mort, et qu'il est dans les limbes ou un truc comme ça.
C'est peut-être même qu'il est dans l'enfer.
Peut-être que l'enfer c'est pas les autres, c'est lui tout seul.
C'est possible.
C'est pour ça qu'il tombe sur lui-même au téléphone.
Mais c'est ça, l'enfer c'est lui tout seul, voilà, c'est ça.
Bon bah voilà, on a trouvé, merci Vic.
Mais de rien.
Merci la Vicoche.
Ouais, quoi d'autre? Moi au début, ça me semble être crucial de le rappeler, enfin de vous l'annoncer, Lila Evadurch, J'ai cru au début que c'était deux personnes, Lila et son compagnon brésilien, Vadorch. J'ai vraiment entendu Lila et Vadorch. À tel point que j'ai googlé Vadorch pour essayer de comprendre.
Non, elle s'appelle comme ça juste parce que j'ai dû chercher un anagramme je m'étais juste noté en fait à chaque appel des espèces de bullet points qui apportaient une info supplémentaire de bizarrerie, le réseau, le machin, le truc, le fait qu'il n'y ait pas de porte, le fait qu'il ne perd pas de batterie, qu'il ne mange pas, etc. Que le temps passe d'une manière un petit peu différente. Et j'avais un des appels à remplir et c'était l'anagramme. Du coup, j'ai dû chercher un nom masculin qui s'anagrammait avec un nom féminin et voilà pourquoi elle s'appelle avec ce nom un peu bizarre.
Mais d'ailleurs, je pense que t'as bien fait effectivement de te mettre juste des bullet points et tout parce que étant donné que nous ne sommes pas des acteurs de profession, je pense que tu t'es rendu une fière chandelle en faisant ça parce que du coup, au moins, tu pouvais juste comment dire.
Ouais, c'était naturel.
Oui, voilà, c'est plus naturel. T'as juste à un moment donné parler de ton bullet point alors que t'es en train de faire ta séquence et puis c'est tout quoi. Non, je pense que c'était une bonne idée, bravo.
Non, moi je peux vous dire mon inspiration principale parce que ça peut donner des clés de se dire quelle est l'histoire. Mais en fait, mon inspiration principale quand j'ai eu le thème, c'est que j'ai voulu faire pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite fortement à découvrir. Mais je suis en ce moment en train de lire pas mal de choses sur la fondation SCP et les rapports SCP. Et en fait. Ce thème, je me suis dit, si je devais faire une chronique, si cette chronique était un rapport SCP, qu'est-ce que ce serait ? Et en fait, si, donc pour ceux qui ne connaissent pas la fondation SCP, c'est un projet d'écriture collaborative sur Internet où il y a tout plein de gens qui ont créé une grande cosmogonie autour d'une fondation secrète et internationale qui
chasse en gros le surnaturel, quoi.
Ouais, voilà, qui chercherait des événements, des objets, des choses surnaturelles, des phénomènes qui seraient contraires aux lois de naturelles et aux lois de la physique, qu'ils appellent donc des objets SCP. Et ces objets SCP là, ils les référencent et ils expliquent dans des rapports comment les confiner. Et donc c'est tout plein de mesures de confinement. C'est un vocabulaire qui est très scientifique et c'est un univers qui est vraiment extraordinaire. Ouais. Je vous invite
à
découvrir.
Tout est diégétique. Hein. C'est important de le préciser. Je crois que tout est diégétique dans le sens où ils prennent jamais de point de vue de l'extérieur. Les gens font comme si ça existait. Les sites font comme si ça existait. Tout fait comme si ça existait. C'est ça qui est passionnant.
Tout à fait. Et du coup, tout le monde peut participer en faisant des rapports qui sont plus ou moins, enfin très souvent mystérieux, souvent. C'est très très scientifique et justement ils utilisent tout un vocabulaire, il y a plein d'éléments de langage qui font que l'ensemble est très très cohérent. C'est vraiment un projet qui dure depuis une quinzaine d'années, enfin depuis même une quinzaine d'années sur Internet, c'est fantastique à découvrir. Et pour ceux qui seraient intéressés par la fondation SCP, il y a une vidéo du youtubeur Alt236 qui fait un Mythologics sur la fondation SCP, une vidéo de presque 2 heures qui est vraiment passionnante,
qui dure extrêmement longtemps, effectivement.
Comme toutes ces vidéos.
Ouais, comme toutes ces vidéos. Mais celle-là est vraiment super. En fait, on se rend compte que dans ces rapports SCP, c'est vraiment plein de choses. Il y en a une, c'est un objet mystérieux qu'on peut pas décrire parce qu'en fait, tous ceux qui sont en contact avec cet objet, ils leur effacent les souvenirs de cet objet. Donc, typiquement, ils peuvent pas parler de cet objet. Il y a des cages d'escalier qui sont infinies. Il y a des bunkers cachés dans des êtres humains, il y a des grille-pains qui sont des objets, des phénomènes comme ça étranges, il y a des bâtiments aussi dedans et après avoir lu celui sur le bâtiment, c'est ça qui m'a fait penser en fait à cette grande salle qui serait une salle dans laquelle on se retrouverait à l'intérieur sans savoir comment, sans savoir pourquoi et dans laquelle il n'y aurait pas de porte. Mais juste un téléphone qui permet de rentrer en contact avec une personne aléatoire et ne pouvoir communiquer avec elle que via la messagerie. Et du coup, j'ai voulu voir un petit peu la succession des messages. Mais c'est l'inspiration principale de cette chronique, la fondation SCP.
C'est ça qui est de pire. Le fait d'avoir une personne à contacter, mais qui ne te répond jamais, ça doit rendre fou. Alors que tu vois, s'il avait pas de numéro dans le répertoire et s'il devait parler lui-même, du coup, il deviendrait pas forcément dingue. En tout cas, tu deviens pas dingue de la même façon. Mais c'est en tout cas cette frustration d'un potentiel de parler avec quelqu'un alors qu'en fait c'est tout bonnement impossible. Je pense que ça doit rendre complètement dingue, quoi.
C'est aussi Wilson, le ballon de volée avec lequel Tom Hanks discute.
Mais le ballon de volée, il va pas te répondre.
Ouais.
Et t'as aucun espoir qu'il te réponde, tu vois. Là, t'as vraiment un espoir de potentiellement quelqu'un peut te répondre, tu vois.
Ouais, ouais, c'est sûr.
Ça te rend peut-être pas fou, mais ça te rend en colère 10 fois plus, quoi. Peut-être que c'est au contraire, ça prévient ta folie, mais par contre, ça te révolte. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans ta chronique, hein. C'est qu'il est, il l'insulte, il est pas du tout MeToo, il part en couille sévère, quoi.
Ah oui, non, il est pas MeToo, mais il se met à l'insulter parce qu'à un moment, il croit qu'elle a quelque chose à voir avec ça. Enfin, il se demande, puis après, il y a le truc de l'anagramme, etc. Donc, lui, il essaie de comprendre ce que.
Manifestement, elle a à voir parce que sinon, il y aurait pas son nom. Et puis, en plus, le fait que son répondeur change, ça indique, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais ça indique qu'elle est dans le truc ou alors que tout ça n'existe pas et que c'est dans sa tête, tu vois, mais que du coup ça induit que c'est surréaliste, quoi, tu vois. Donc voilà,
tout à fait.
Voilà, et ben écoutez, je pense que moi j'ai transpiré beaucoup là, je sens mauvais, hein. Je sens mauvais, c'est terrible. Est-ce qu'on voulait ajouter quelque chose ou on continue à parler de ma transpiration?
Ni l'un ni l'autre si possible.
On peut choisir Roco, si okay, on peut faire aucun des deux. On va passer au Roco après un jingle.
Un interlude musical.
Tandis que Florian s'est mis au piano et nous joue une petite mélodie, celle des recommandations, qui veut commencer avec la première recommandation ?
Je peux commencer. En ce 50e épisode, je vous recommande une série télévisuelle diffusée par la chaîne HBO, donc généralement Game of Thrones mis à part, synonyme de qualité. Une série réalisée par Sam Levinson.
Ah bah oui.
Et ça va parler à Florian parce que je l'avais conseillé de la regarder, comme ça tu pourras dire si tu valides ou non cette reco. C'est une série qui s'appelle Euphoria. C'est une série qui est avec deux actrices principales qui sont Zendaya, qui a eu un Emmy, l'Emmy de la meilleure actrice pour ce rôle-là, et une autre actrice qui s'appelle Hunter Schaeffer, qui est une actrice transsexuelle qui joue le rôle d'une adolescente transsexuelle. Et en fait, c'est une série qui va justement parler d'adolescence. L'adolescence de la génération Z, hein, parce que c'est plutôt la génération née après 2000, quoi. Donc, ça va être une série là-dessus. Mais qui est vraiment... Enfin, qui, moi, j'ai trouvé cette série assez extraordinaire à plusieurs égards, dans son écriture, vraiment top. Ça va parler de choses basiques. À pitcher, il y a rien d'autre à dire que c'est l'histoire de deux adolescentes, quoi, mal dans leur peau, forcément, comme tous les adolescents du monde, et pour plusieurs raisons, mais qui peuvent aller de la sexualité justement à la drogue ou à plein d'autres choses du quotidien. Pour ces acteurs, les acteurs et actrices de cette série, c'est des jeunes, hein, qui ont une vingtaine d'années à peu près tous, et qui sont vraiment tous plutôt très bons. Je pense que pour la plupart de ceux qu'on voit dans la série, c'est des acteurs qui vont devenir des références de demain, parce que c'est vraiment des acteurs de qualité. Pour sa direction artistique, que j'ai trouvé assez fantastique, c'est vraiment, même si vous tapez pour voir si ça peut vous intéresser, vous tapez Euphoria dans Google, allez voir quelques images, et on se rend vite compte, ou un trailer ou une bande-annonce, on se rend vite compte un petit peu de... C'est à la fois réaliste et pas tant que ça. Il y a une utilisation des couleurs qui est vraiment super intéressante, des lumières qui est vraiment super intéressante. Florian confirmera ou non. Son écriture, j'en ai parlé. Voilà, la réalisation qui est très soignée. Et après, dans les sujets qu'elle aborde, c'est souvent du malaise, souvent assez violent, pas dans la violence physique, mais dans la violence mentale. C'est assez envoûtant, c'est assez... addictif. C'est un joli portrait d'une génération un petit peu paumée. C'est une série qui n'est pas sans défauts, mais ce sont des défauts qu'on pardonne bien facilement parce que c'est une série qui est vraiment très très généreuse dans ses thèmes et dans ce que ça vient raconter, dans la manière dont ça vient le raconter. Et voilà, c'est 10 épisodes, c'est assez court à regarder. Et voilà.
Moi, je vais compléter un peu ta recommandation parce qu'effectivement, moi j'avais commencé, j'ai vu passer cette série en fait. Avant que tu me la recommandes, etc. Et je me suis dit, ouais. Ah, encore une série sur l'adolescence, ça me fait chier, en plus il y a Zendaya, etc. Bon, a priori il a eu un Emmy, mais est-ce que je vais vraiment passer du temps à regarder ça? La réponse est oui, bien sûr, il faut passer du temps pour regarder ça, je pense. Parce qu'après ta reco, je me suis laissé tenter et je me suis dit que c'était une bonne idée dès les 10 premières secondes en fait de la série. Mais genre vraiment, quand tu dis que c'est généreux, c'est le réalisateur, la réalisation, la production, tout est extrêmement généreux. Chaque plan, c'est pas de la réal feignante, tu vois. C'est chaque plan est calculé et tout et apporte une bonne idée. C'est pas forcément, c'est pas du génie dans la réalisation, dans le jeu d'acteur et tout. Il y a rien de génial, mais et c'est extrêmement généreux et c'est bien fait et c'est malin. Et tu parlais d'acteurs qui vont faire demain. Moi, je pense que Sam Levinson, c'est encore mine de rien un relativement jeune réalisateur.
Pas complètement.
Et là, il a sorti du coup son nouveau film qui s'appelle Malcolm et Marie, avec aussi Zendaya en actrice principale, qui est un huis clos dans un appartement et qui va parler d'amour. Je suis extrêmement pressé de le regarder. C'est pas une recommandation, mais je suis extrêmement pressé de le regarder. Et pour finir aussi, c'est pas juste pour finir de convaincre les auditeurs, c'est pas juste une série sur l'adolescence, c'est une série sur la rédemption et c'est le message derrière tout ça est vraiment très bien porté et très très intelligemment mis en scène. Voilà.
Mais de ton côté, Thomas, quel est ta reco?
Moi, j'avais pas de reco du tout, donc j'ai quand même essayé de trouver un truc tant bien que mal. Moi, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je vais essayer de faire très vite du coup parce que c'est pas méga intéressant, je pense. Mais j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps à consacrer à la consommation de culture pour plein de raisons, parce que j'ai des choses à faire et puis parce que j'avais lu des livres un peu longs ou des jeux vidéo un peu longs, machin, etc. Et aussi surtout, et c'est ça dont je vais parler un peu ce soir, c'est j'ai eu pas mal de déceptions culturelles. Et donc ça sera ça ma recommandation pirouette, parce que c'est une recommandation pirouette du coup, c'est un nouveau type de recommandation.
C'est déception culturelle ?
Non, pas du tout, c'est qu'en fait je vais vous recommander d'arrêter les conneries qui vous disent de sortir de votre zone de confort. Je vous recommande de faire ce que vous aimez déjà et de vous blottir dans le cocon sirupeux de votre monde intérieur familier. Je vous raconte rapidement mes dernières semaines. J'ai découvert, et ça va peut-être faire écho à vous, à votre vie, ou je sais pas, enfin vous me direz. J'ai découvert un auteur il y a peu de temps, j'en ai parlé peut-être un peu avec Vic, un auteur qui s'appelle Tristan Garcia, et un auteur français, pour différentes raisons, et sur le papier, tout devait me plaire chez lui. Quand j'ai entendu un podcast, j'avais entendu plusieurs podcasts parler de lui, j'ai lu les pitchs de ses livres, j'ai écouté un interview, j'ai foncé à la librairie pour acheter un de ses livres. Énorme déception, gigantesque. J'ai lu le roman que j'ai lu, je vous le donne pas parce que sinon c'est une recommandation, tu vois. C'est un roman sage qui est super poli, qui a une écriture surannée avec des personnages féminins souvent ramenés à leur corps. C'est vraiment à l'ancienne, enfin terrible quoi. Pour vous donner l'idée, j'ai lu 300 pages, il m'en restait 150 à lire et j'ai rage quit. Et moi, pour pas finir un livre, parce que normalement j'abandonne jamais un livre, même si je déteste, qu'il faut que j'aille au bout parce que parfois j'aime à la fin ou n'importe quoi, et j'ai vraiment faut que je déteste. Donc voilà, j'ai eu une grosse déception sur ça. Je continue sur un deuxième point. J'ai enfin joué à Outer Wilds, le jeu vidéo développé par Mobius. Peut-être que vous avez entendu parler de ce jeu. C'est 3 BAFTA, rien que ça, dont le BAFTA du meilleur jeu de 2020.
Et laisse-moi deviner, c'est une grosse déception ?
Exactement, c'est recommandé, c'est beaucoup moins une grosse déception, mais bon, c'est recommandé par Exerve, le youtubeur, influenceur, twitcher, ce que vous voulez, en qui je fais une confiance aveugle, et bah non plus. Je comprends pourquoi les gens adorent, je peux même dire que c'est un excellent jeu, il y a plein de trop bonnes idées, je me suis même émerveillé un peu au début de certains trucs, le fait qu'on puisse, je vais pas raconter le jeu parce que c'est pas l'objet, mais bon bref, peu importe, je comprends pourquoi les gens adoraient, beaucoup plus que Tristan Garcia, ses romans, néanmoins c'est pas pour moi. Et je m'attendais vraiment à un jeu monstrueux. Enfin, on se parle d'un jeu qui a eu des BAFTA, qui est recommandé par un mec que je kiffe et qui a des super super critiques. Bah, j'ai pas aimé du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi dans ma vie ? Eh ben, j'ai acheté un recueil de nouvelles de David Foster Wallace. Alors même que je sortais de la lecture de l'Infinie Comédie et que c'est mon troisième recueil de nouvelles de Wallace. Et j'adore. Je passe un très bon moment. J'ai lancé Dishonored 2, qui est un jeu qui est sorti il y a 2 ans et qui ne demande aucun effort parce que j'avais déjà poncé le 1 à l'époque. Et j'adore aussi. Et donc, je ne vais pas vous recommander ni David Foster Wallace, ni Dishonored 2. Je vais effectivement vous recommander, c'est ma recommandation pirouette, de ne pas sortir de votre zone de confort et de faire ne surtout pas faire preuve d'ouverture d'esprit et de surtout aller vers ce que vous aimez et ne pas écouter les autres gens. Voilà. Et n'écoutez pas les recommandations.
Et surtout pas Exerve.
Non, bah si, pourtant j'adore ce mec et j'adore ses recos, mais là non, je comprends, je respecte ce jeu qui est un jeu excellent. Ça m'a fait pareil pour Breath of the Wild, hein. Je sais que c'est pas du tout consensuel de dire ça, mais moi j'ai pas aimé et je comprends pourquoi les gens aimaient. Et je comprends pourquoi c'est un grand jeu et je l'admets. Voilà. Florian?
Oui.
Est-ce que tu veux,
oui,
est-ce que bonjour. Tu veux qu'on parle de toi?
On peut parler de ma recommandation. Ma recommandation, elle va voler beaucoup moins haut que ce dont vous êtes en train de parler. Je vais vous proposer, moi, une compétition télévisuelle. Donc, vous voyez, genre, truc Top Chef, etc. Mais pas du tout comme vous pouvez vous l'attendre. Je pense que vous êtes peut-être tombé dessus par hasard, sans faire exprès, en allumant Netflix ces derniers temps.
Tu vas nous parler de Souffleur de verre.
Je vais vous parler de Souffleur de verre. Mais mon Dieu, mais il faut absolument regarder cette série de compétition télévisuelle qui s'appelle du coup Envers et contre tous,
c'est
en
vrai,
français.
C'est vrai.
Déjà que ouais ouais. Envers et contre tous, Envers du coup VERRE versus VERS, que je trouve une bonne adaptation d'ailleurs du titre américain. Qui s'appelle Blown Away, je crois, un truc dans le genre.
Ah, c'est enfin, bien bref. Aussi, ils sont forts, ils sont très
pitch.
Forts. Hein.
Ouais, mais carrément. Et je vais vous faire le pitch comme il est décrit par Netflix. 10 souffleurs de verre sont réunis dans le plus grand atelier du genre en Amérique du Nord pour s'affronter et repousser les limites de leur créativité. Comme ça, sur le papier, franchement, je l'ai vu passer, je me suis dit, mais jamais de la vie, je regarde ça, tu vois quoi. Et en fait, j'ai vu...
C'est sortir de sa zone de confort.
Ah mais laisse tomber. Et j'ai vu pas mal de gens dire, oh là là, mon Dieu, c'est trop bien, Envers et contre tous, c'est superbe et tout, je sais même pas comment je suis tombé dedans, mais maintenant, j'arrive plus à m'en dépêtrer, et je comprends complètement. C'est juste... voir des gens en train de faire du verre, déjà le verre pour moi c'est enfin comme pour nous tous hein, c'est fragile et dur à la fois, mais le procédé de fabrication, même si on sait à peu près comment c'est fait, tu peux pas t'imaginer à quel point c'est fascinant, à quel point c'est beau, c'est je sais pas, c'est brillant, c'est fluorescent, c'est quelque chose qu'on dirait presque hors de la Terre, tu vois, quelque chose d'alien limite, tu vois quoi. Si en plus on rajoute à ça qu'il y a plein de comment dire d'allusions sexuelles en anglais, comme par exemple le four dans lequel on met la pâte à verre au bout de la tige, ça s'appelle un glory hole par exemple, que durant tout un épisode t'as pas mal de gens qui vont dire à leur assistant de blow in the stick ou ce genre de choses, franchement c'est
ça c'est ta tasse de thé, ça. Alors, ça ah ouais, fait rire,
c'est
ça,
c'est parfait, aïe, c'est aïe, parfait aïe, tu aïe. Vois c'est 20 minutes d'un petit à la fois, c'est comme disait Vic, c'est sortir de ma zone de confort, et à la fois tu te cales tranquillement à la fin d'une journée harassante de travail avec une petite bière, tu te mets un petit épisode de d'Envers et contre tous, ça dure 20 minutes, c'est pas long et tout, t'en prends plein les mirettes. Tu rigoles de temps en temps, tu souffles du nez quand quelqu'un parle d'un glory hole. Moi je dis, j'en demande pas plus. Oui.
Écoute, moi j'ai regardé ça, moi j'ai regardé l'épisode 1. Effectivement, c'est sortir de ma zone de confort aussi. Mais qu'est-ce qu'une zone de confort, hein? Je repose pas la question. Mais moi, j'ai rage quit aussi à la fin, mais pas parce que l'émission était nulle, parce que j'étais en colère contre les jurys. Parce que moi, en gros, il y a un des gars qui est, je crois, qui est genre au Beaux-Arts américain, l'équivalent des Beaux-Arts, c'est-à-dire que c'est plus un artiste qu'un artisan. Et le premier concours, peut-être que c'est pas l'épisode 1, c'est ma copine qui a regardé pour un peu, c'est un autre épisode, tu vas nous dire, mais ce qu'il fallait faire, l'épreuve, c'était de faire un personnage de cartoon. Ou un truc comme ça, je crois. C'était ça, un personnage de cartoon. Et lui, ce qu'il a fait, les autres, ils ont fait des aspirateurs avec des gros yeux, des trucs comme ça. Il y en avait beaucoup qui étaient vraiment dégueux. C'était vraiment de mauvais goût, je trouve. Et lui, il a fait un pot à crayon avec des crayons dedans et un crayon en dehors du pot qui est cassé avec du sang qui sort. Et j'ai trouvé ça brillant parce qu'en fait, c'est des objets. Mais vu qu'il y en a un qui saigne, bah en fait, ça coche la case. Bah oui, t'as fait un personnage, tout à fait. Parce que il était vivant, c'était un personnage, simplement il était déguisé. Et je trouvais ça brillant. Et le jury, ils sont complètement placés à côté, ils lui ont trop mal parlé. Ils lui ont dit, non mais attendez, c'est pas des personnages, machin et tout. Ça m'a énervé et j'ai rage quit. Voilà.
Sachant que t'étais même pas rentré dedans vraiment, parce que c'était ta meuf qui avait mis l'épisode.
Oui, oui.
Mais d'ailleurs, tu m'as spoilé parce que je pense que c'est. Là, tu parles de la saison 2.
Ah bon?
Je pense. Parce que quand j'ai vu qu'effectivement la saison 2, elle est sortie il y a pas longtemps, le 22 janvier, je crois, sur Netflix en France, je me suis dit, attendez, moi, si je veux en apprendre plus sur cette série, je commence par le premier épisode, première saison.
Ah,
logique,
oui.
Tu vois. Quoi.
T'es un complétiste.
Ah mais moi je commence pas en plein milieu de saison 2 alors que je ne connais pas du tout la bête, tu vois quoi. Ouais. Je veux commencer dès le début,
tu
saison
fais ça
1,
sérieusement,
c'est épisode
quoi.
1. Ah bah
après,
oui.
Tu fais les bonus, les making of, les commentaires du réalisateur.
Okay. Non, mais je peux comprendre qu'effectivement le jury peut parfois être un peu agaçant, mais c'est pas grave, il faut passer outre et ouais.
Non, puis il faut juste kiffer. les personnages, parce que c'est un peu des personnages, c'est quand même, ça reste quand même pour le coup l'univers, c'est vraiment une sortie de confort, mais après les codes, c'est vraiment très télé-réalité avec des personnages très archétypaux, et donc ça c'est voilà assez classique, mais effectivement ils sont assez cool, je trouve que c'est pas du tout les personnages sont assez attachants, enfin de ce que j'ai vu dans un épisode, hein, mais c'est un peu des artistes, un peu des hipsters, hein, ils ont des looks pas possibles, c'est assez cool ça je trouve. Et voilà.
En tout cas, moi je trouve que Florian, tu as parlé de vert avec une passion débordante qui a presque achevé de me convaincre. On verra si je me lance dedans. Mais je trouve que tu en as parlé avec beaucoup de passion et ça m'a ému.
Et bah, regarde un épisode et tu verras si ça marche avec toi. Mais franchement, c'est assez ouf. Tu, à la fin d'un épisode, tu te dis mais... Waouh!
Je pense qu'il y a aussi un peu de cette fascination qu'a l'œil sur le. Enfin, le feu sur l'œil, tu vois, qu'on n'arrive pas. Le feu, on le voit jamais vraiment directement, mais on voit quand même le vert un peu rouge et il y a un truc qui nous attire l'œil, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un peu de ça aussi.
Et puis voir le vert tout mou, qui se tend, puis même tous leurs outils là, pour transformer le vert comme ils le veulent. Et,
t'es fan.
C'est clair. Mais c'est fascinant.
C'est fou.
Oh là là.
Je vous le conseille.
Écoutez, tu pourrais t'étendre dessus pendant des heures, mais vu qu'on est déjà très très loin dans le podcast, on va peut-être pas. Ce qui est important de dire, c'est que du coup, d'ici 3-4 mois, il y aura les premiers goodies en verre à Lionel et Garçon, soufflés par Florian, lui-même. Et ça sera cool. Est-ce que Vic, tu voulais ajouter quelque chose sur la recommandation de Florian ou tu voulais te moquer ou non?
Non, absolument pas. Mais j'aime beaucoup ton idée des goodies et j'espère qu'un jour on en aura.
On y croit. Écoutez, on va mettre de la musique maintenant et on va se dire au revoir.
Il est l'heure de dire au revoir. Oui. Je pense que là, l'épisode doit être extrêmement long.
Il est extrêmement long. On a vraiment. Mais après, ça valait le coup parce que c'était l'épisode 50, parce qu'on avait des chroniques qu'il fallait chroniquer, tu vois. Et puis il y avait des recommandations qu'il fallait recommander.
Et puis surtout qu'il fallait pas qu'on soit un petit peu qu'on se retienne un peu parce qu'on a été en retard et
il fallait
y aller quoi.
On est en retard.
Il fallait qu'on soit aussi généreux.
On était en retard de 30%, donc on a rajouté 30% de matière à l'épisode gratuit pour nos consommateurs. Donc ça me semble logique.
On se retrouve quand
oui, rien n'est gratuit parce que sinon c'est nous le produit, c'est ça, ou un truc comme ça. Peut-être que c'est
quelque chose comme ça.
C'est nous le produit parce qu'on fait le podcast gratos. On est les produits de nos auditeurs, quoi. C'est terrible. On se retrouve dans 3 semaines. Qu'est-ce que Florian,
ouais,
tu veux
3 semaines, un mois maintenant, on n'est plus vraiment sûr. Tu vois.
Non, on va se ressaisir, on va y arriver, je pense. Florian, tu as envie d'expliquer aux auditeurs comment on fait pour.
Ce qu'on doit faire. Vous savez qu'au bout d'un moment, j'oublie moi ce qu'on doit faire exactement. Je pense que quoi. Il faut partager. Mettre des étoiles sur iTunes. Il faut pas hésiter à nous envoyer des thèmes. Il faut pas hésiter à nous envoyer de l'amour. Ça, on aime bien en ce moment recevoir des messages et tout. Vous êtes vraiment des gens géniaux et vous nous envoyez de l'amour et c'est cool. Sinon, il faut écouter le podcast. Si, nouveau truc qu'il faut faire. Si vous voulez nous faire plaisir, vous lancez le podcast, vous écoutez une minute, vous l'arrêtez, vous relancez pendant une minute, vous arrêtez, ça fera triple écoute pour nous. C'est du bonheur.
Alors on est,
ça fera monter les stats sur le chat, ça sera parfait.
On est sûr de ça?
Bah certainement.
Ah, peut-être, je suis pas certain. Bon, et non, sinon, si vous pouvez faire ça, sinon vous pouvez simplement nous envoyer un message en disant salut la vie coche, moi je suis content. Juste ça me suffit, hein, vraiment. Bon allez, on se dit dans trois semaines, on se fait des bisous, on se croise sur les réseaux sociaux, comme a dit Florian, et puis sinon, essayez de rester en vie, quoi. Allez, bisous.
Bisous.